Vous écoutez
RMC. RMC, 7h-9h. Apolline Matin.
Sébastien Krebs.
Bonjour à tous, bienvenue sur RMC et sur RMC Story. Ravi de vous retrouver en ce 14 juillet. On démarre la journée ensemble ce 14 juillet avec le traditionnel défilé sur les Champs-Élysées. Ce sera le dernier comme président pour Emmanuel Macron et Apolline de Malherbe. Et déjà sur place ce matin, on la retrouvera tout à l'heure à 8h30 pour un face-à-face exceptionnel avec comme invité la ministre des Armées, Catherine Vautrin. Ce défilé qui fait toujours la quasi-unanimité chez les Français, 80% des Français considèrent le défilé du 14 juillet comme un symbole important de l'identité nationale. Tiens, qu'en pensez-vous? Vous réagissez au 32-16, on vous attend aussi sur le WhatsApp RMC 0612 424 424. Un 14 juillet un petit peu particulier, très particulier même du côté de Nice. C'était il y a 10 ans, un attentat atroce sur la promenade des Anglais, le chauffeur d'un camion qui renversait la foule venue assister au feu d'artifice. 86 morts, 400 blessés, commémoration ce soir en présence du chef de l'État. Dans 10 minutes, un témoignage. Nous serons avec l'une des victimes de cet attentat, toujours très marqué 10 ans après, et qui se réjouit que l'on reparle enfin de ce drame délaissé par les autorités françaises. Ce sera son parti pris. Une minute de silence sera d'ailleurs observée avant le match France-Espagne. La demi-finale de la Coupe du Monde, c'est ce soir à 21h, à suivre évidemment sur RMC. Vous n'allez évidemment rien rater. On sera avec nos envoyés spéciaux du côté de Dallas, avec les consultants RMC Sport, Daniel Riolo, Eric Dimeco, tout à l'heure à 7h40. Vous y croyez à cette place en finale de la Coupe du Monde? On vous attend au 32-16 et sur le WhatsApp RMC 0612 424 424. Dans un instant, le journal de 7h. Bienvenue et bon réveil. Vous êtes sur RMC, il est 7h.
RMC, Apolline Matin.
Le journal avec Thibaut Texer.
Bonjour Sébastien, bonjour à tous. Près de 1900 hectares partis en fumée. Les flammes avancent à une vitesse vertigineuse en forêt de Fontainebleau, où 600 pompiers appuyés par d'importants moyens aériens tentent de lutter contre le feu. Nous serons sur place dès le début de ce journal. Le 14 juillet de Paris à Nice pour Emmanuel Macron, qui va passer en revue les armées ce matin aux Champs-Élysées avant une cérémonie d'hommage aux victimes de l'attentat de la promenade des Anglais il y a 10 ans. Et Dallas, patrie du dollar, du pétrole et désormais temple du football. C'est là que les Bleus vont disputer ce soir leur demi-finale de Coupe du Monde face à l'Espagne.
Les rotations aériennes vont reprendre ce matin au-dessus de la forêt de Fontainebleau.
Le poumon vert de Paris, dévoré par les flammes en plusieurs points distincts. Près de 1900 hectares de forêt ont brûlé, je vous le disais, depuis dimanche. 600 pompiers sont à pied d'œuvre. 150 engins seront encore mobilisés. Aujourd'hui, on va retrouver Rachel Sadodine sur place en direct ce matin du côté d'Achères-la-Forêt. Rachel, le feu n'est toujours pas fixé ce matin. Pire, il continue de s'étendre et de gagner en intensité.
Oui, le ciel, en principe bleu, est rendu gris par les nuages de fumée qui s'élèvent encore de la forêt. Il y a quelques minutes seulement, les premiers hélicoptères ont commencé à survoler la zone. Plusieurs dizaines de personnes évacuées ont trouvé refuge ici, à la salle des fêtes d'Achères-la-Forêt. Mais à seulement 5 minutes de voiture, les pompiers luttent encore activement contre le feu. En traversant la forêt, j'ai vu des flammes dévorer des troncs d'arbres déjà quasiment calcinés, des plots en plastique fondu, l'air est âcre. Et ici, tout le monde attendait donc avec l'impatience l'arrivée de ces moyens aériens qui pourraient être déterminants. Hier, 4 Canadair, 2 avions et 3 hélicoptères bombardiers d'eau ont été déployés. Mais le vent qui souffle aujourd'hui ne facilite pas la tâche des pompiers.
Et ce feu, Rachel, pourrait avoir une origine volontaire puisqu'on a appris que 2 personnes avaient été interpellées.
Et parmi eux, un jeune homme de 18 ans, inconnu des services de police. Il a été interpellé avec un briquet sur lui, les mains recouvertes de suie. Une nouvelle choquante pour les habitants évacués comme Olivier, 67 ans. Cela fait 2 nuits qu'il dort dans la salle des fêtes d'Achères-la-Forêt.
Il est absolument évident qu'il y a des gens qui foutent le feu. Il y a des pyromanes qui ont été à l'action. C'est une forme de folie ou quoi? Je comprends pas. On est un peu désemparé, dépité, on n'a jamais vu quelque chose de cet ordre. Et bien évidemment, c'est terriblement triste pour tout le monde. On est tous des amoureux de notre forêt, on adore notre environnement.
Olivier ne sait pas dans quel état sa maison se trouve à l'heure actuelle. En évacuant dimanche soir, il observait plusieurs départs de feu autour de chez lui. Une dizaine de points ont été recensés par les autorités dans un périmètre de 1000 mètres. C'est d'ailleurs ce qui les pousse à suspecter ce caractère volontaire de cet incendie.
Rachel Sadodine en direct d'Achard-la-Forêt ce matin pour RMC. Au total, 59 personnes ont été interpellées à l'échelle du pays depuis le début de la saison. 7 ont été placées en détention provisoire, dit Laurent Nunez, ministre de l'Intérieur. Des incendies qui ont provoqué de nouvelles perturbations hier sur la ligne TGV Paris-Lyon. En raison de plusieurs feux dans l'Yonne, désormais fixé, le trafic ferroviaire a pu reprendre dans les Côtes d'Armor, cette fois en Bretagne. 35 hectares ont brûlé en raison d'un feu désormais fixé au Cap Fréhel. Plus d'une centaine de personnes ont été évacués. Parmi ces personnes, il y a Marie-Lou, vacancière dans un camping marqué par l'ampleur de cet incendie.
Au début, on n'était pas très alarmés parce que le feu, il était à 3 km du camping. Et puis en fait, on nous a vraiment prévenu que le feu était beaucoup plus important que ce qu'on pensait. Au micro, ils ont appelé, faut évacuer. Là, le stress, il a un peu commencé à monter. On voyait le feu, c'était impressionnant. Puis toute la fumée, la braise qu'il y avait, on ne s'attendait pas à ça, surtout pas ici en Bretagne. Normalement, les feux, c'est plus dans le sud de la France. On ne s'attendait pas à ce que ce soit ici et d'une telle ampleur. Donc, c'était éprouvant, stressant, faut le vivre.
Et ce matin, 30 départements restent en vigilance élevée au feu de forêt. 26 sont en vigilance canicule avant un retour à la normale annoncé pour jeudi.
Et on fait un point en direct dans un instant sur la situation de ces incendies avec le porte-parole de la Fédération française des sapeurs-pompiers de France, commandant Éric Brocardi, en direct avec nous dans un instant. 7h05 sur RMC, 14 juillet 2026. C'est le dernier d'Emmanuel Macron dans son costume de président.
6800 soldats descendront les Champs-Élysées ce matin. C'est un record parmi eux, 500 militaires, membres de la coalition des volontaires, le défilé met à l'honneur la mobilisation européenne à la demande d'Emmanuel Macron. Et pour y assister, il vous faudra un QR code, dispositif un temps annulé par la justice et finalement rétabli dans la nuit par le Conseil d'État. Le chef de l'État prendra ensuite la direction de Nice en fin d'après-midi pour une cérémonie d'hommage aux victimes de l'attaque terroriste du 14 juillet 2016. Ce soir-là, des milliers de Niçois célèbrent la fête nationale sur la promenade des Anglais avant qu'un camion bélier ne vienne percuter la foule. 86 personnes ont perdu la vie, 400 autres ont été blessés. Une attaque terroriste gravée dans les mémoires, celle notamment du pompier Frédéric Dalpon, rencontré par Inès Zegloul pour RMC. Il se souvient 10 ans plus tard.
Ce soir-là, il n'est pas le lieutenant Dalpon, il n'est pas de service.
C'était sur une plage privée, on voit le premier drapeau vert.
Regard vers les galets, en contrebas, Frédéric se souvient. La nuit s'annonce festive, familiale, il est 22h30.
Et une fois le feu d'artifice terminé, mouvement de foule sur la plage, donc le camion est déjà passé. Devant moi, j'ai 4 victimes, dont 3 enfants. Et je me suis occupé de cette petite fille, c'est la plus jeune victime ce soir-là.
Quel âge ?
2 ans et demi.
L'émotion pudique du pompier de carrière à qui
je tombe sur mon supérieur qui dit je vais te demander un truc merdique.
On demande l'impensable.
Il faut un chiffre, il faut que tu ailles me compter les morts. Et je l'ai fait. Je m'arrête à chaque corps. Et le dernier que je compte, c'est le chauffeur du camion. Donc il y a des images qui restent imprégnées et qu'on n'oubliera jamais.
Alors, il a eu besoin de rencontrer les familles, leur dire son impuissance, comme une thérapie, dit-il. Besoin de continuer à travailler à quelques pas de la promenade.
La porte est ouverte.
Dans cette même caserne, hantée par les souvenirs.
Cette année, c'est particulier. C'est un chiffre rond, il y a les 10 ans. On sait qu'il y a le président de la République qui va venir pour les commémorations. Je représenterai les pompiers de Nice et c'est important d'y participer. Et on a appris à avancer avec.
10 ans plus tard.
Et 10 ans plus tard, on est toujours là.
Et ce soir, une minute de silence sera respectée en hommage aux victimes avant la demi-finale de l'équipe de France de foot face à l'Espagne.
Des Bleus qui visent une 3e finale de Coupe du Monde consécutive.
Radio officielle de la Coupe du Monde de la FIFA 2026.
Et on espère un feu d'artifice de but tricolore face à l'Espagne ce soir 21h à Dallas où l'on retrouve Jean-Louis Tour en direct pour RMC. Le match a déjà commencé en coulisses. Chacun y va de son petit mot à ce petit jeu. Didier Deschamps a décidé, Jean-Louis, de mettre la pression sur l'Espagne.
Oui, et c'est la deuxième fois que Deschamps est élogieux envers l'Espagne sur cette Coupe du Monde. Avant le premier match, il parlait déjà des champions d'Europe en titre comme des favoris pour la victoire finale. C'est donc logiquement qu'il a remis la pression sur les épaules espagnoles hier.
L'Espagne a confirmé de ser el favorito.
Voilà, l'Espagne a confirmé qu'ils étaient bien les favoris. Et quelques minutes plus tard, dès la première question de sa conférence de presse, son homologue, l'Espagnol Luis de la Fuente, lui a répondu.
Depuis le début, je vous dis, être favori, ne pas être favori, pour moi, ça n'a pas de sens. L'important, c'est, est-ce que le match est décisif? Oui, entre deux grandes équipes. Mais dire qu'on est favori, je ne comprends pas.
Deux grandes équipes qui seront emmenées par leur star, Lamine Yamal côté espagnol et Kylian Mbappé côté français. Même s'il a écourté sa séance hier, le coup reçu à la cheville contre le Maroc ne devrait pas l'empêcher d'être titulaire. Deschamps qui devrait par ailleurs enregistrer le retour à 100% d'Aurélien Tchouaméni. Incertitude sur le quatrième attaquant entre Désiré Doué et Bradley Barcola.
Jean-Louis Tour, qu'on retrouvera au commentaire de ce match ce soir, 21h à vivre sur RMC en direct de 20h à 5h du matin. Et puis la route du Tour qui s'élève au lendemain d'un jour de repos pour le peloton attendu au Lioran, 7e et dernière ascension de la journée, 166 km de course à vivre sur RMC. Le massif central, terrain de bataille entre les principaux leaders, à moins qu'un Français ne vienne jouer les troubles fêtes en ce jour de fête nationale.
Thibaut Texer pour le journal sur RMC et RMC Story, 7h09. On va partir au 32-16. C'est Bruno qui est avec nous ce matin. Depuis Nantes. Bonjour Bruno.
Bonjour, bonjour.
Bienvenue à vous Bruno. Quel est le programme ce soir pour le match pour France-Espagne?
Alors quel est le programme? Je serai en poste, donc je serai au travail de 20h30 à 6h15, mais ça n'empêche que je vais regarder le match en direct sur mon téléphone.
Ah, il y a quand même la télé sur le téléphone. Je vois que vous êtes agent de sécurité, hein, c'est ça?
Ouais, agent de sécurité incendie, ouais.
Bon, vous y croyez à cette finale de Coupe du Monde?
Sincèrement, ouais, j'y crois. Deux buts, 2-0, un de Mbappé et puis un de Upamecano. J'aimerais bien que lui marque, ça serait sa récompense. C'est un très bon défenseur, donc il apporte du physique, des fois quelques ratés, pour être honnête, hein, quelques ratés, mais du physique et de la technique. Par contre, Mbappé, ça va être chaud, puisqu'il va se faire recadrer par quelques joueurs. Je pense qu'il va être sous surveillance, deux ou trois joueurs dessus, je pense.
Vous n'avez pas peur de cette équipe espagnole qu'on considère depuis le début de cette Coupe du Monde comme la grande favorite?
Non, ils sont tous favoris. À partir du moment qu'ils ont été en demi-finale, c'est que c'est quatre superbes équipes, même si je suis pas pro argentin. C'est quatre belles équipes. Que le meilleur gagne, mais je suis pro-français. Donc, on a une belle équipe, belle génération. Bon, certes, c'est pas Platini, c'est pas Zidane, c'est pas des Rosto et autres. C'est d'autres générations, mais je pense qu'elle peut gagner.
Eh ben écoutez, on va y croire avec vous, Bruno. Merci pour votre appel au 32-16. 2-0, hein, a dit Bruno. Tiens, qu'en pensez-vous? On vous attend au 32-16. À 7h40, on sera avec Daniel Riolo, Eric Dimeco. On verra ce que eux en pensent de cette sélection espagnole. Est-ce qu'elles peuvent gripper la machine des Bleus? On en parlera à 7h40 et on vous attend donc au 32-16. Il est 7h11 sur RMC et on va retourner sur le front des incendies. Près de 2000 hectares brûlés depuis dimanche en forêt de Fontainebleau. Un incendie à quelques dizaines de kilomètres de Paris, c'est inédit. Bonjour Eric Brocardi.
Bonjour.
Lieutenant-colonel, vous êtes le porte-parole de la Fédération nationale des sapeurs-pompiers de France. Quelles sont les dernières nouvelles ce matin? Que pouvez-vous nous dire? Est-ce que ces incendies en forêt de Fontainebleau sont toujours hors de contrôle?
Ils sont pas hors de contrôle. Disons que l'ensemble des sapeurs-pompiers aujourd'hui continuent à travailler d'arrache-pied. Il faut être extrêmement vigilant avec les statuts, les qualificatifs que l'on donne sur les incendies, parce que derrière vous avez des hommes et des femmes qui au quotidien sont particulièrement engagés. Et 1900 hectares sont aujourd'hui annoncés sur les deux principaux feux, effectivement. Donc aujourd'hui c'est une question encore de lutte et de bataille, surtout le matin, là où le vent est censé être le moins, on va dire le moins virulent pour les sapeurs-pompiers. Voilà, nous n'avons pas beaucoup d'alliés sur le terrain. Nous devons compter sur nos véhicules, nos moyens aériens, évidemment sur toutes celles et ceux qui sont engagés, et puis effectivement sur l'application stricte des consignes données à l'ensemble des concitoyens dès lors qu'ils sont dans le secteur et qu'il y a nécessité ou non de pouvoir évacuer.
Il y a la chaleur qui va continuer aujourd'hui, il y a le vent qui va reprendre aujourd'hui. On attend encore du vent?
On attend malheureusement encore certains vents, un vent qui est particulièrement pénible. Dès le départ, ce vent, il a été complexe à gérer, puisqu'il a fait partir l'ensemble du dispositif sur un secteur gauche, puis qui a créé un secteur droit. Donc, ce sont des conditions qui sont pas forcément évidentes avec, comme vous l'avez dit, à 10 km de Paris, des contraintes pour les vols aériens, des contraintes d'un point de vue infrastructure. Donc, c'est pas du tout les mêmes configurations que ce que l'on peut rencontrer lorsque l'on lutte contre les incendies dans le sud de la France. Où là, vous avez effectivement beaucoup de nombreuses pistes de défense de forêt contre les incendies. La forêt de Fontainebleau n'est pas forcément configurée pour malheureusement être défendue sur le plan des incendies. Ça reste des pistes qui sont praticables d'un point de vue touristique. Donc il y a aussi effectivement ce sujet sur l'ensemble du territoire national, si on dézoome un petit peu, de prendre en considération tous les moyens nécessaires pour qu'à l'avenir l'ensemble des forêts de France puissent être défendues avec justement soit les axes, soit les équipements nécessaires.
On a vu hier ce deuxième foyer s'approcher de la ville de Fontainebleau, pas très loin du château, à quelques kilomètres. Est-ce qu'il y a une inquiétude pour les zones habitées ce matin ?
Nous avons toujours comme stratégie la défense de points sensibles. C'est mettre les sapeurs-pompiers là où il y a une nécessité, de manière à pouvoir, en même temps de défendre les points sensibles, essayer de diminuer considérablement le front de feu et en même temps d'essayer d'orienter le feu vers des zones qui soient, on va dire, neutres en termes de moyens sensibles. Donc l'orientation, elle est toujours cette manière-là, c'est sauver des vies, protéger surtout les biens et permettre systématiquement d'engager des moyens nécessaires en fonction de la demande, en fonction des nécessités absolues. Voilà.
Merci beaucoup, lieutenant-colonel Eric Brocardi, porte-parole de la Fédération nationale des sapeurs-pompiers, donc pour cet incendie qui donc n'est pas fixé ce matin, et le travail des pompiers qui continue. 800 pompiers qui sont mobilisés ce matin sur le terrain en forêt de Fontainebleau. Merci beaucoup. Il est 8h14 sur RMC.
RMC jusqu'à 9h.
Apolline Matin.
Et c'est un 14 juillet très particulier à Nice aujourd'hui, 10 ans après l'attentat de la promenade des Anglais. 86 personnes tuées, renversées par un homme qui a foncé sur la foule au volant de son camion à la fin du feu d'artifice. Emmanuel Macron présidera les commémorations ce soir. Dans un instant, nous sommes en ligne avec Stéphane Herbs. Il était sur la promenade des Anglais ce soir-là, ce 14 juillet 2016, avec sa femme et ses deux enfants. Son épouse n'a pas survécu. Et il nous dit ce matin son sentiment d'avoir été parmi les victimes oubliées des attentats. Cet attentat au rabais, dit-il, c'est son parti pris. Il est avec nous dans un instant. À tout de suite.
RMC jusqu'à 9h. Apolline Matin.
Sébastien Krebs.
Il est 7h17 et vous êtes bien sûr RMC et RMC Story. Apolline Matin continue. Beaucoup de messages ce matin, à la fois au 32-16, sur le WhatsApp RMC aussi, Victor, avant ce choc France-Espagne en demi-finale de la Coupe du Monde ce soir.
Et sur le 06-12-424-424, forcément, on est tous supporters des Bleus. On a d'abord Ali qui nous dit, du côté espagnol, il y a Lamine Yamal, l'étoile filante de cette Coupe du Monde, qui traverse les matchs sans réellement les impacter. C'est ce qui le rassure. Ali qui nous dit que finalement la vraie étoile de ce mondial, c'est toujours et encore Kylian Mbappé. On a aussi Moussa qui pronostique son 3-2 pour les Bleus, et puis comme Bruno qu'on a eu il y a quelques instants, d'autres pronostiquent un 2-0 toujours avec un but de Kylian Mbappé. Ça revient beaucoup dans les messages
et vous continuez de nous écrire. Il est 7h17 et on en vient à ces commémorations 10 ans après l'attentat de Nice, chauffeur de camion qui avait foncé sur la foule sur la promenade des Anglais après le feu d'artifice. 86 morts, dont 15 enfants, 400 blessés. Bonjour Stéphane Herbs.
Bonjour.
Merci d'être en direct avec nous ce matin. Vous étiez sur place ce 14 juillet avec vos deux enfants et avec votre épouse Rachel, qui n'a pas survécu. Elle avait 39 ans et on pense à elle ce matin. Depuis, vous co-présidez l'association Promenade des Anges. Et votre parti pris ce matin, Stéphane Herbs, c'est de dire que vous avez le sentiment d'avoir été une victime oubliée, le sentiment d'avoir été l'attentat au rabais, en comparaison par exemple avec les victimes du 13 novembre à Paris, c'est ça que vous voulez dire ?
Oui, alors c'est pas une victime oubliée, parce que je suis une victime parmi les victimes de l'attentat, c'est surtout que les victimes de l'attentat et l'attentat dans sa globalité sont complètement oubliées hein, depuis une dizaine d'années, depuis 8 ans plutôt. La dernière fois qu'on a eu la visite d'un président et d'un officiel entre guillemets, c'était en 2017 avec la venue de Emmanuel Macron, puis l'année suivante avec Éric Dupond-Moretti, puis ensuite il y a eu un réel désintérêt de toutes les commémorations et au-delà des commémorations, de tous les combats qu'on porte.
Aujourd'hui, il y aura des commémorations retransmises en direct sur toutes les chaînes avec la présence du président de la République. C'est un pas important ?
Oui, c'est un pas important. Moi, je l'avais rencontré le 11 mars lors de la journée nationale et il m'avait garanti qu'il venait pour les commémorations. Je lui avais rappelé aussi que c'était l'attentat, les commémorations de l'attentat 2017, c'est les premières de son mandat et les 10 ans, ce sera les dernières de son mandat. Donc je pense qu'aussi pour lui, ça revêt une importance assez particulière, une symbolique aussi assez particulière.
Comment allez-vous aujourd'hui, Stéphane ? Qu'est-ce qu'il reste 10 ans après ?
Ah, c'est la question à faut poser, comment ça va? Bon, disons que on continue de survivre. On s'est dit les premiers jours après l'attentat, bah, on va essayer de survivre au quotidien, de faire les actions quotidiennes, l'inscription des enfants à l'école, le travail, etc. Et puis on s'aperçoit avec le temps, bah, on met un pied devant l'autre et on continue d'avancer sans trop le vouloir, parce qu'en fait, bah, y a le quotidien qui prend le dessus. Vous êtes happé par les contraintes quotidiennes. Puis bah, on se retourne au bout de 10 ans, on s'aperçoit qu'on a fait un chemin. C'est pas un chemin qui est parfait, c'est pas le plus beau, mais bon, on se dit, bon, il a le mérite d'exister, puis on a poussé nos enfants, on a fait grandir nos enfants, et je pense que c'est l'essentiel.
Vos enfants qui avaient 7 et 12 ans à l'époque, si je ne fais pas d'erreur, comment est-ce qu'ils ont grandi avec ça?
Bah, sinon, une enfance, c'est aussi une adolescence vraiment particulière. C'est bah, déjà, c'est une éducation monoparentale dans un cadre de contexte de deuil, donc c'est jamais facile. Et puis, on vient rajouter en surenchère bah, le contexte de l'attentat avec les atrocités, les horreurs que vous imaginez, dont je parlerai pas forcément, mais voilà. C'est au-delà d'avoir perdu un parent, c'est l'avoir perdu dans un attentat au milieu de dizaines d'autres victimes dans une scène d'atrocité extrême. Donc oui, ça a été très difficile, notamment l'adolescence de ma fille. Aujourd'hui, elle a 22 ans et c'est une jeune fille assez épanouie, je trouve. Elle pourrait avoir beaucoup plus mal tourné, entre guillemets. Mon fils, lui, il a 17 ans et c'est un peu pareil. Moi, on s'est dit, on n'a pas le choix, il faut qu'on avance. Et je pense qu'on a un côté résilient assez fort. Je sais pas, ça vient peut-être du caractère ou de notre façon d'agir depuis l'attentat. L'implication aussi, je pense, dans l'association qui a été assez, assez important et qui leur a montré aussi ouvert une certaine voie.
Merci beaucoup pour votre témoignage ce matin, Stéphane Herbes, et pour cette résilience dont vous faites part. Et vous serrez les coudes entre victimes au sein de votre association, puisque vous co-présidez donc cette association qui s'appelle Promenade des Anges, association de victimes. Vous serez ce soir sur la Promenade des Anglais pour les commémorations qui seront présidées par le président de la République. Merci à vous. Il est 7h22 sur RMC.
RMC jusqu'à 9h.
Apolline Matin.
Dans un instant, on va remonter l'histoire avec vous, Arthur Chevalier. Bonjour Arthur.
Bonjour Sébastien.
Historien d'Apolline Matin. Hier, on a vu ces Canadairs, on en parlait tout à l'heure, en forêt de Fontainebleau, aller puiser de l'eau dans la Seine. Des Canadairs mobilisés pour la toute première fois en région parisienne. Ces hydravions sont canadiens et pourtant, ils ont une histoire bien française.
Eh oui, le Canadair, c'est évidemment un avion canadien, mais l'avion qui se pose sur l'eau, donc l'hydravion, c'est une invention française qui date du début du XXe siècle.
À tout de suite, on se retrouve dans 80 secondes.
RMC, Apolline Matin.
Il est 7h24 sur RMC, sur RMC Story. Quand l'histoire éclaire notre actualité, avec vous Arthur Chevalier, l'historien d'Apolline Matin. Bonjour Arthur.
Bonjour.
Hier, l'ancien Premier ministre et candidat à la présidentielle, Édouard Philippe, a plaidé pour un Canadair souverain.
Mais oui, faire des Canadairs français, c'est désormais dans son programme présidentiel. Édouard Philippe s'y est engagé. Une prise de position qui, évidemment, n'est pas anodine, hein, puisqu'avec le réchauffement climatique, les incendies se multiplient. Du coup, la demande de Canadairs explose. Sauf que problème, les délais de livraison sont très longs. Par exemple, la France en a commandé 2. Elle ne les recevra qu'en 2032. Une des explications, c'est que tout le monde se fournit chez le même fabricant, c'est-à-dire l'entreprise canadienne Canadair. Donc, le Canadair souverain est une idée qui fait du sens. D'autant que notre flotte est à la fois insuffisante et vieillissante.
Et pourtant, l'hydravion, à l'origine, c'est bien une invention française.
Et oui, c'est une invention française qu'on doit à un Marseillais qui s'appelait Henri Fabre. Nous sommes au début du XXe siècle. C'est la naissance de l'aviation. Et depuis qu'il était petit, ce Henri Fabre était passionné d'avions, de moteurs et de voiles. Donc dès qu'il obtient son diplôme d'ingénieur, eh bien il se met à travailler sur un projet complètement fou pour l'époque, un avion qui décolle et qui atterrit sur l'eau.
Et en 1910, le miracle se produit.
Et oui, après 4 ans de travail acharné, beaucoup d'échecs, tout est finalement prêt. L'avion d'Henri Fabre, on l'appelle le canard à cause de la forme qu'il avait. Le 28 mars 1910, l'engin décolle depuis les temps de Berre, hein, c'est une lagune à côté de Marseille. Il parvient à voler pendant un peu moins d'un kilomètre, à atterrir sur l'eau. Bref, mission accomplie et l'hydravion était né.
Et ces avions d'un nouveau genre, ils vont d'abord avoir une fonction militaire.
Exactement, puisqu'en fait, on va beaucoup s'en servir pendant la Première Guerre mondiale de 1914 à 1918. Là où ils avaient un vrai plus, ces avions, eh bien, c'était pour les missions de surveillance au-delà des côtes, hein, puisqu'évidemment, cet appareil avait l'avantage de pouvoir se poser facilement. Et oui, sur l'eau, vous n'avez pas besoin de piste d'atterrissage. Petit à petit, on transforme les hydravions en avions de combat avec des mitrailleuses, mais on s'en servait aussi pour des vols commerciaux avec des passagers, des vols de ligne, si vous préférez.
Et quand est-ce qu'on se met à les utiliser contre les incendies ?
Alors en fait, c'est assez tard, puisque ça arrive après la Deuxième Guerre mondiale. On reconvertit des hydravions militaires américains en bombardiers à eau, notamment pour lutter eh bien, contre les feux de forêt. Mais le tout premier hydravion spécifiquement conçu pour la lutte anti-incendie, c'était donc une création de l'entreprise canadienne Canadair, hein, celle qui nous fournit encore aujourd'hui. Cet avion, c'était le CL-215. Son premier vol a lieu en 1967. Et c'est d'ailleurs cette même année qu'il arrive en France. Alors pourquoi est-ce que le Canadair a eu autant de succès ? Eh bien parce que sa particularité, c'est qu'il n'a pas besoin de se poser pour s'approvisionner en eau. Pardon. Il lui suffit d'effleurer la surface, ce qui évidemment est un gain d'efficacité et de rapidité.
Ouais, et on salue les pilotes qui sont incroyables quand on voit les images de ces Canadair qui se posent sur la scène. Passionnante histoire des hydravions ce matin. Merci Arthur Chevalier, chronique à réécouter bien sûr en podcast sur l'appli RMC. 7h27, dans un instant la météo et le journal de 7h30, et puis France-Espagne, c'est donc ce soir demi-finale exceptionnelle entre les deux favoris du mondial. Alors quels atouts des deux côtés ? L'Espagne peut-elle barrer la route des Bleus vers la finale ? Éric Dimeco, Daniel Riolo avec nous juste après le journal de 7h30. A tout de suite.
RMC, Apolline Matin.
Un nouveau journal tout de suite avec Clément Gouitz. Bonjour Clément.
Bonjour Sébastien, bonjour à tous. Dernier défilé du 14 juillet pour Emmanuel Macron. Une démonstration de force cette année sur les Champs-Élysées. L'incendie en forêt de Fontainebleau progresse. Plus de 1900 hectares brûlés depuis dimanche. Et la solidarité s'organise pour accompagner les pompiers qui luttent contre ce feu. Et c'est à vivre ce soir sur RMC. France-Espagne, demi-finale du Mondial. Un match particulier pour l'attaquant madrilène Kylian Mbappé.
C'est donc un 14 juillet hors norme qui se prépare sur les Champs-Élysées.
Le dernier défilé militaire présidé par Emmanuel Macron doit débuter à 10h et l'Ukraine sera à l'honneur avec un message clair, l'afficher, le réveil européen en présence d'une trentaine de chefs d'État. Et Sonia Gobry du service politique des RMC, vous êtes en direct ce matin des Champs-Élysées. Et avant le coup d'envoi de ce défilé, un imbroglio autour du QR code d'accès anime la matinée. Supprimé hier et rétabli cette nuit par le Conseil d'État.
Est-ce que vous le disiez ?
Sonia Gobry, on a un petit souci technique avec Sonia Gobry, on la retrouvera dans quelques instants. Emmanuel Macron sera également attendu à Nice en fin d'après-midi pour les commémorations des 10 ans de l'attentat. Attentat sur la promenade des Anglais qui a fait 86 morts et plus de 400 blessés. Une cérémonie est prévue à 18h.
Et on va retourner sur les Champs-Élysées tout à l'heure après le journal de 8h. Retrouver Apolline de Malherbe qui reçoit pour le face-à-face tout à l'heure depuis les Champs-Élysées la ministre des Armées Catherine Vautrin. Ce sera à 8h30.
RMC 7h32. La forêt de Fontainebleau brûle toujours. Cela fait plus de 24 heures hein, que les pompiers luttent contre ce feu d'origine volontaire. Un feu qui progresse, a déjà parcouru plus de 1900 hectares. De nombreux moyens ont été déployés. Canadair, hélicoptères, bombardiers d'eau. Et Marion Gauthier, vous vous êtes rendu sur place. Un élan de solidarité se met en place pour venir en aide aux 600 pompiers mobilisés.
Ils remplissent la citerne.
On est reparti.
Et se rapprochent de l'incendie.
Ça permet aux pompiers d'éviter d'aller ravitailler. Ils sortent de la forêt, on les ravitaille en eau et ils repartent tout de suite au front.
Jérôme habite le Vaudouet, un village sinistré.
J'ai été évacué dimanche et du coup, je me suis dit, voilà, au lieu de rester à rien faire, autant venir aider.
Avec Vincent, au volant, l'agriculteur s'inquiète des dernières nouvelles des pompiers.
C'est compliqué là parce que partout où ils passent, ils ont l'impression que ça redémarre derrière. Le feu est tellement intense, le problème c'est qu'ici c'est de la tourbe, donc ça continue à se consumer à l'intérieur du sol en fait.
Arrivé au milieu d'autres tracteurs, des camions rouges défilent dans la fumée et le bruit des pompes à eau. Christophe, un technicien agricole, est ici depuis dimanche.
On a préféré arrêter la moisson pour pouvoir sauver la forêt. On travaille tous les jours dans la nature. Le plus dur, c'est de le voir partir en fumée. Donc, on n'est pas fatigué et on sera là toute la semaine.
Il y a des gâteaux, des chips.
Trois jeunes des villages alentours apportent alors des pique-niques.
Il y a un autre groupe qui va passer pour les pompiers. On s'est divisé les tâches à la mairie. C'est la mairie qui nous a envoyés.
Des sacs déposés sur le trottoir où des riverains désœuvrés craignent que les flammes grignotent leur forêt.
59 interpellations partout en France, dont 2 pour ce feu de forêt de Fontainebleau, annonce le ministre de l'Intérieur Laurent Nunes. 7 d'entre eux sont en détention provisoire.
Et on sera à Fontainebleau dans un instant pour un coup de fil à l'ancien maire et aujourd'hui député de Fontainebleau, Frédéric Valtoux.
Et de nombreuses perturbations hier en gare de Lyon, jusqu'à 4 heures de retard. Conséquence des incendies aux abords de la ligne TGV Sud-Est, notamment dans Lyon. Le trafic a repris normalement ce matin. Les États-Unis continuent de frapper l'Iran, 3e nuit de suite. Donald Trump a également évoqué le rétablissement de leur blocus sur le trafic maritime iranien dans le détroit d'Ormuz, et tout en estimant qu'un accord avec Téhéran est toujours possible.
Il est 7h34 sur RMC et RMC Story. C'est l'affiche qu'on attendait. Et c'est ce soir Kylian Mbappé face à son pays d'adoption, l'Espagne.
Le capitaine.
RMC.
Radio officielle de la Coupe du Monde de la FIFA 2026.
Le capitaine des Bleus qui évolue sous les couleurs du Real Madrid depuis 2 ans rêve d'éliminer ce soir l'Espagne en demi-finale de la Coupe du Monde à Dallas. Mbappé, qui brille lors de ce mondial, crispe les supporters madrilènes. Edgar Grollo.
Oui, pour les Espagnols, le Kylian Mbappé de la Coupe du Monde n'est pas celui qu'ils connaissent.
Il me fait peur, je le trouve très fort dans cette Coupe du Monde.
Il est beaucoup plus impliqué et investi avec sa sélection. En club, on veut qu'il donne tout sur le terrain. Il le fait avec la France, mais jamais de la vie avec le Real.
Les prestations du capitaine des Bleus ont de quoi énerver certains supporters madrilènes.
Ça me frustre parce qu'on ne va rien gagner si les joueurs ne se concentrent que sur leur sélection. À Madrid, Mbappé, ce n'est pas un exemple pour l'équipe, alors qu'en France, tout le monde s'appuie sur lui.
C'est très mal Mbappé.
Un écart de niveau expliqué par son rôle dans chaque équipe, selon Miguel Angel Toribio, journaliste pour Radio Marca.
La différence, c'est que plus tu lui donnes du pouvoir sur le terrain et du leadership, plus il est fort. En plus, il a une idylle avec la Coupe du Monde. On est en train de voir un Mbappé quasiment inarrêtable.
Kylian Mbappé a déjà marqué 8 buts dans ce mondial. C'est autant que sur ses 4 derniers mois de compétition avec le Real Madrid.
France-Espagne, c'est à 21h, c'est bien sûr à suivre sur RMC. Ne ratez pas également l'avant-match dès 18h, Rotten sans flamme en direct de la brasserie Le Flora à Paris.
Et je salue Daniel Riolo qui est déjà installé en studio. On sera aussi avec Eric Dimeco dans un instant pour évoquer cette affiche 21h France-Espagne ce soir sur RMC.
Et après une journée de repos, le peloton s'attaque à la montagne aujourd'hui, 10e étape. Étape longue de 161 km, un parcours qui pourrait livrer une nouvelle bataille entre le maillot jaune Pogacar et son rival Vingegaard à Intégral Tour. C'est à 14h sur RMC.
Le quintet, c'est sur l'hippodrome de Paris-Longchamp aujourd'hui à 18h30.
Et le pronostic de Frédéric Kita, son favori, le 4 Gérard Terborc, et son outsider est le 2 Caramelito.
Clément Gouitz pour le journal en direct sur RMC. Il est 7h36 et on part à Fontainebleau. Bonjour Frédéric Valtoux.
Bonjour.
Vous êtes l'ancien maire de la ville, vous êtes aujourd'hui député de Seine-et-Marne, député Horizon. Est-ce que vous avez des nouvelles ce matin, des pompiers? Quelle est la situation sur place?
Bon, la situation n'a pas tellement bougé puisque la nuit, les interventions, notamment de Canadair, tous les moyens aéroportés sont à l'arrêt. Et donc il y a une stabilisation de la situation, ce qui est déjà une bonne nouvelle. Puisque là, dans les minutes qui viennent, les Canadaires vont pouvoir reprendre leur travail. C'est quand même ce qui est le plus efficace pour éteindre les feux. Et donc, j'ai eu les pompiers il y a quelques minutes. Ils espèrent. Ils l'espéraient déjà hier matin, mais ils espèrent pouvoir arriver à fixer au moins les feux aujourd'hui, c'est-à-dire à les contenir dans leur périmètre, ce qui est déjà le début d'une résolution du sujet.
On comprend que donc ils ne sont pas encore fixés.
Encore,
il y a notamment ce brasier visible depuis le château de Fontainebleau à quelques kilomètres. Il y a une inquiétude ce matin pour la ville de Fontainebleau?
Non, il n'y a pas d'inquiétude pour la ville de Fontainebleau. C'est spectaculaire parce qu'effectivement, on a vu hier cette colonne de fumée s'élever très haut dans le ciel, très dense comme fumée, qui effectivement, vu de la ville, donc vu du château aussi, pouvait donner l'impression qu'on était proche alors qu'on était à 1,5 km, 2 km, ce qui en soi n'est pas très loin, mais on n'est pas dans l'immédiat voisinage. Et les vents ont de toute façon plutôt poussé ce deuxième foyer d'incendie qui est apparu hier, hein, proche de la ville de Fontainebleau, ont poussé à l'opposé de la ville les flammes. Donc, et c'est un feu plus petit, si on peut dire ça comme ça, 100 hectares seulement, ce qui est déjà énorme pour la ville de Fontainebleau, mais par rapport aux 1700 hectares, 1500 hectares du feu qui a démarré il y a 48 heures, est un foyer plus circonscrit.
On s'approche des 2000 hectares brûlés dans cette forêt de Fontainebleau. C'est une ampleur qu'on n'a pas connue dans la moitié nord de la France depuis 20 ans. Vous, comme maire de Fontainebleau, puis comme député, c'est une situation que vous aviez imaginée. Est-ce que c'est un scénario auquel les autorités locales étaient préparées?
Alors, oui et non, on avait imaginé qu'effectivement la répétition des feux allait nous tomber dessus avec les changements climatiques, avec les épisodes de canicule à répétition, et quelque part on s'y était préparé puisque par exemple les plans de vol pour les Canadairs avaient été préparés il y a déjà 3-4 ans, et depuis 3-4 ans on sait que si un jour, ce qui n'était jamais arrivé en Île-de-France, si un jour un Canadair devait arriver, il savait exactement où est-ce qu'il fallait qu'il aille écoper de l'eau sur la Seine, à quel endroit la Seine était suffisamment droite, suffisamment longue pour pouvoir exercer, enfin dire venir chercher de l'eau. Donc quelque part sur le plan réglementaire, on était prêt. Néanmoins, là, on n'était pas prêt à un scénario noir comme celui-là, c'est-à-dire des départs de feu multiples, des foyers nombreux, qui font converger des incendies qui, par leur surface, prennent une ampleur tout à fait inédite, sur un épisode de sécheresse qu'on connaît, de canicule très très fort. Et là, la forêt malheureusement s'embrase. Moi, en 20 ans comme maire, j'avais jamais connu de feux de cette ampleur. Les plus importants faisaient 4, 5, 6... Allez, je crois qu'une fois, on est monté à 10 hectares. Là, comme vous le rappeliez, on va arriver sans doute entre 1700, 1800 hectares, peut-être, qui vont partir en fumée.
Et des incendies d'autant plus choquants qu'on parle de potentiels incendies criminels volontaires, avec deux personnes qui ont été interpellées, nous dit le ministre de l'Intérieur, pour une enquête qui est encore en cours et dont on n'a pas les conclusions. Merci Frédéric Valtoux d'avoir été en direct avec nous ce matin, ancien maire de Fontainebleau, député de Seine-et-Marne. Il est 7h40.
RMC jusqu'à 9h.
Apolline Matin.
Dallas, ton univers impitoyable. Les Bleus sont au Texas pour une place en finale France-Espagne. C'est ce soir à 21h. Vous la suivrez, cette demi-finale sur RMC. Et on en parle ce matin avec Eric Dimeco, notre fil rouge de la Coupe du Monde. Bonjour Eric.
Bonjour Sébastien, bonjour à tous, salut.
Et avec Daniel Riolo, bonjour Daniel, qui bonjour. Est avec nous ici en studio. On vous écoute tous les soirs dans l'after et on suit avec vous deux cette Coupe du Monde. Ça devient sérieux, c'est une affiche de finale peut-être ce soir. France-Espagne, deux prétendants au Mondial. Alors est-ce que la machine des Bleus peut se gripper? Quel est votre favori pour ce match? On en parle dans un instant, à tout de suite.
RMC jusqu'à 9h. Apolline Matin.
Sébastien Krebs.
Il est 7h43, on est ravis de vous accompagner en ce 14 juillet, jour de demi-finale de Coupe du Monde.
RMC,
radio officielle de la Coupe du Monde de la FIFA 2026.
Espagne, c'est à 21h, c'est à Dallas, demi-finale donc de la Coupe du Monde. On est ce matin avec Eric Dimeco, consultant RMC, et avec Daniel Riolo, journaliste RMC Sport. Rebonjour à tous les deux. C'est le match qu'on attendait, peut-être l'affiche de rêve entre les deux favoris de ce mondial. Eric, c'est une affiche de finale ce soir?
Oh oui, on présente tout ce match-là comme une finale avant l'heure, mais oui, cette demi-finale était attendue. Tout à l'heure, tu disais, Sébastien, les choses sérieuses commencent, mais elles ont commencé depuis un moment, hein, même si l'équipe de France s'est facilité le parcours. C'était sérieux jusqu'à maintenant. Les Français nous ont fait plaisir et ont bien fait le boulot. Mais là, ce soir, c'est vrai qu'on n'a pas rencontré d'équipe comme l'Espagne encore depuis le début de la compétition.
C'était déjà sérieux, mais ça paraissait facile, Daniel, jusque-là. Ce soir, ça arrive. Risque d'être plus compliqué?
C'est un mélange des deux jusque-là, parce qu'effectivement, les adversaires, il faut dire la vérité, il n'y a pas eu grand monde face aux Bleus. C'est également vrai de dire que la supériorité de l'équipe de France a été nette et que oui, ils se sont rendus le chemin facile, mais On n'a eu personne du niveau de l'Espagne face à nous depuis le début. C'est pour ça qu'il y a cet inconnu. C'est pour ça qu'il y a ce suspense. Il aura fallu attendre jusqu'à la demi-finale pour avoir un gros adversaire. C'est la nouvelle formule de la Coupe du Monde qui a fait que les tableaux se soient constitués de cette façon. Et là, on quitte la côte Est. Là, on a joué tous les matchs. On va à Dallas, vous l'avez dit dans la présentation. On a l'Espagne face à nous, équipe qui est là également pour gagner la Coupe du Monde. Il y a une forme d'inconnu dans ce que les Bleus peuvent rendre comme performance. Tout le monde les voit très forts. Tout le monde dit que c'est probablement l'une des équipes les plus fortes de ce mondial. On s'attendait peut-être pas de l'autre côté à ce que les Anglais soient aussi forts. Mais là, de ce côté du tableau, tout semblait écrit dès le départ. Ce France-Espagne, on y aurait droit. C'était écrit dans la demi-finale. Bon, voilà, on y est maintenant. Et moi, je trouve que il y a un vrai gros suspense autour de ce match. Personne n'arrive réellement à savoir quel genre de scénario ce match pourra avoir, parce que les Bleus ont beaucoup changé. Maintenant, on est devenu une équipe offensive.
Avec alors la meilleure attaque. Meilleure attaque de cette Coupe du Monde face à la meilleure défense.
Alors que c'était pas du tout notre habitude. Donc là aussi, il y a beaucoup de questions, beaucoup d'inconnus. Mais je pense que c'est ça qui fait aussi que cette demi-finale est passionnante. Ouais. C'est qu'on sait pas ce qu'on va voir.
Et donc face à la meilleure défense qui est l'Espagne dans cette Coupe du Monde, Eric, est-ce que l'Espagne peut gripper la machine des Bleus et ce trio offensif très performant depuis le début ?
Ah oui, ils ont. On sait qu'ils aiment avoir le ballon. Alors même si nous, on est à l'aise contre ces équipes-là normalement, c'est-à-dire des équipes qui aiment avoir le ballon, qui aiment se projeter vers l'avant, des latéraux très offensifs. Donc nous, on a en attaque des garçons qui vont très vite dans les transitions. Donc on présente tous ce match-là comme un match peut-être qui nous conviendrait mieux. Sauf que techniquement, c'est fort en face. On le sait, ils aiment avoir le ballon. On peut passer de longues minutes sans toucher le ballon alors après la solidité défensive espagnole, j'ai un doute. Je suis pas aussi sûr que ça. C'est peut-être les adversaires qu'ils ont rencontrés jusque-là qui leur a permis cette
perte. Ils ont rencontré des beaucoup plus forts que nous.
Ils ont encaissé un seul
peut-être,
but.
Peut-être. Ouais. Non, mais j'ai un doute. On le verra ce soir. Hein. Et offensivement, je les trouve un petit peu moins forts que les deux dernières fois quand on les a rencontrés. Et c'était deux défaites. Et là, ils étaient vraiment supérieurs à nous. Lamine Yamal n'est pas encore à son plus haut niveau et Nico Williams n'a pratiquement pas été sur le terrain pendant cette compétition. Donc moi, je suis très très confiant et je serais très déçu si l'équipe de France n'allait pas en finale.
Ah ben, on serait tous évidemment très déçus. Je suis sûr que Saïd, qui est avec nous au 32-16, serait aussi très déçu si les Bleus n'allaient pas en finale ce soir. Bonjour Saïd.
Ouais, salut à toute l'équipe de RMC. Et comme je vous ai dit un peu en début là, je disais, moi je vois bien sûr l'Espagne, c'est son jeu de garder le ballon. La possession, ils ont un milieu extraordinaire. Mais je pense que devant, on va très très vite. Et c'est dans la transition, justement, les contres, on peut leur faire très très mal. Et moi, je vois bien un 3-1 ou un 3-2. Allez, un match assez ouvert quand même.
Daniel, d'accord avec Saïd ?
Alors, vous savez qu'en Espagne, ces derniers jours, moi, j'avais remarqué que les joueurs parlaient beaucoup. Et se montrait extrêmement confiant. Je constate ce matin que nos joueurs ne parlent pas, eux sont très discrets, mais alors les supporters et les consultants sont extrêmement confiants. On a l'impression que c'est joué déjà avec les Bleus, vont battre l'Espagne. Très honnêtement, c'est je vois un léger avantage pour les Bleus, mais honnêtement, c'est un match qui.
Mais Daniel.
Oui.
Le fait que les Espagnols parlent beaucoup, ça, et que nous non, ça dénote pas, peut-être. Fait, j'ai pas l'habitude.
Je ne connais pas la psychologie des Espagnols en sport. Mais ils ont l'habitude d'afficher beaucoup de confiance, qui, vue de l'extérieur, peut ressembler à de l'arrogance.
Ah non, mais moi je parle pas d'arrogance. Je parle peut-être de peur.
Est-ce que le fait de parler beaucoup en fait cache une sorte de crainte?
Je sais pas.
C'est possible. Ce dont ils sont sûrs, en tout cas, c'est que puisqu'on a beaucoup parlé des deux derniers affrontements à la finale. La demi-finale de l'Euro 2024 et le match de Ligue des Nations l'année dernière, c'est que eux savent que nous on a changé et que notre attaque est plus performante et que maintenant nous ne sommes plus une équipe qui attend recroquevillée derrière sans style de jeu. Désormais, nous aussi nous avons un style, nous aussi nous sommes offensifs et nous aussi nous jouons haut en faisant du pressing. Ça, eux, ils se disent ah oui, ils ont vraiment changé les Bleus. Et ça peut instiller chez eux une forme de doute, ça c'est certain.
Donc match animé avec du spectacle et des buts, on peut espérer une rencontre de ce type-là.
Ça, on peut
Eric
vous le promettre, ça nous coûte pas très cher de faire la promesse.
Hein. Ouais, mais si à la fin il y a 0-0 et prolongation. prolongation, ce sera pas la même.
Les promesses.
Sauf que contre, sauf que contre le Portugal, on promettait, enfin, Espagne-Portugal, on promettait des buts et du jeu. Et bon, ça n'a pas été le match de la Coupe du Monde non plus. Donc, attention, il faut se méfier.
Merci à tous les deux. Le coup d'envoi est à 21h du côté de Dallas. Ce sera évidemment à suivre sur RMC, radio officielle de cette Coupe du Monde France-Espagne. RMC en direct des États-Unis ce soir de 20h jusqu'à 5h du matin. Toute la nuit, vous ne manquerez rien du match et de l'après-match avec l'after en direct de New York autour de Gilbert Bribois. Merci à tous les deux. Il est 7h50 et dans un instant, la voix de gauche d'RMC, c'est vous, Cécile Duflot. Bonjour Cécile.
Bonjour.
Ancienne ministre et patronne d'Oxfam ce matin, vous voulez relancer un ISF climatique, encore une nouvelle taxe ?
Non, pas une nouvelle taxe, simplement un système logique. Plus vous payez, plus vous polluez, plus vous payez. Donc ça va financer l'adaptation, ça va financer les services publics. Ça peut fâcher certains riches, mais il y en a certains qui sont d'accord.
À tout de suite.
RMC, Apolline Matin.
Le bonus RMC de Victor Porcher, le rappeur Jay-Z, ce matin, qui a fêté ses 30 ans de carrière.
Alors vous, pour fêter vos 30 ans, peut-être que vous vous réunissez avec des amis. Bah Jay-Z, c'est pareil, mais pour 3 concerts consécutifs au Yankee Stadium de New York. Alors oui, à New York, il y a eu Alicia Keys, que vous entendez évidemment. Il y a eu aussi la femme du rappeur Jay-Z, Beyoncé, le chanteur Usher, que du beau monde. Mais la nuit dernière, c'est bien elle, elle seule, qui a soulevé la foule. Elle, évidemment, vous l'avez reconnue, c'est Rihanna, et le public l'aura bien mérité, cette rare apparition de la chanteuse sur scène, parce que ce dernier concert d'anniversaire, il a commencé avec plus de 3 heures de retard, perturbé par des fans sans billets à l'entrée. Alors on espère que ça se passera mieux à Paris. Concert de Jay-Z prévu au Stade de France, ce sera le 10 septembre.
RMC, Apolline Matin.
Voix de gauche,
voix de droite.
Et ce matin, c'est mardi, c'est jour de voix de gauche avec Cécile Duflot, ancienne ministre, patronne d'Oxfam. Cécile, face au changement climatique, il faut une justice fiscale. C'est ce que vous plaidez ce matin avec cette proposition. Vous voulez instaurer un ISF climatique.
Oui, là, on voit bien, chaque jour qui passe, on a besoin de Canadair. Le débat est monté, on a besoin de pompiers. On a besoin, je crois que tout le monde l'a compris, de financer l'adaptation au changement climatique. On a besoin de financer la transition écologique. On a besoin d'aider nos services publics. Et qu'est-ce qui s'est passé en même temps en France ? Un envol des inégalités avec un enrichissement des super, super riches. Une des raisons de ça, c'est des décisions fiscales, c'est notamment la suppression de l'ISF. Donc quand on a fait une chose qui était une erreur, on fait marche arrière. Et donc il y a une vraie proposition qui est celle d'un retour d'un impôt sur la fortune, mais climatique, dans les deux sens du terme.
Ça veut dire quoi dans les deux sens du terme ?
Dans les deux sens du terme, ça veut dire qu'il y a cette logique du pollueur-payeur. Donc faire payer plus ceux qui investissent dans des investissements nuisibles au climat, des investissements bruns. Donc on charge davantage cet ISF. Et par ailleurs, ça sert à financer les investissements dans la transition écologique, ça sert à financer l'adaptation. C'était l'idée aussi de la taxe Zucman, mais c'est une idée en fait qui a été promue dès 2020 et dès la conférence citoyenne sur le climat. Le mécanisme a été détaillé par Greenpeace, mais aussi par Oxfam, et mieux encore, dans le rapport Pisani-Ferry-Mahfouz. Je rappelle que Jean Pisani-Ferry, c'est un des inspirateurs du programme d'Emmanuel Macron. Il disait que pour financer la transition écologique, il faudrait une contribution, lui, il parlait d'exceptionnel, des plus riches.
Est-ce qu'on sait combien ça rapporterait ?
Alors, l'estimation d'Oxfam, c'est 15,7 milliards par an. Et donc, quand on parle en milliards, on va pas bien voir ce que c'est. Bah, du coup, je vais parler en Canadair. Donc, 15,7 milliards, c'est 400 Canadair par an. On en a 12, il nous en manque 4, 2 qu'on a abandonnés. D'ailleurs, en parlant de ça, en 2024, et c'est le moment où on a arrêté la commande de 2 Canadair supplémentaires, on a fait baisser le budget de la sécurité civile de 53 millions d'euros. Donc on voit bien que l'ordre de grandeur, il est vraiment en faveur de cette ISF climatique.
Bon, c'est ce que vous savez, ce qu'on va nous dire, les riches ne seront pas d'accord pour payer une nouvelle taxe.
Eh bien, ce n'est pas complètement vrai, et c'est pour ça que je voulais vous en parler ce matin, parce que je veux saluer ce matin l'initiative de multimillionnaires français qui prennent la parole, et je sais que c'est compliqué, pour défendre la justice sociale et la transition écologique en disant que eux-mêmes sont prêts à payer des impôts. C'est inédit que ce soit aussi collectif. Je crois que c'est une très grande nouvelle. C'est un papier de Thierry Fabre qui le raconte dans le fameux numéro de Challenge sur les 500 plus grandes fortunes de France. Du coup, je vais citer leurs noms. C'est Mathieu Pigas, ça on le connaît bien, mais c'est aussi Maxime Kurdjian, Jean-Baptiste Rudel, Armand Thiberge, Marc Batty et Édouard Sauer. Je voudrais saluer chacun d'entre eux. C'est tous des entrepreneurs qui ont parfaitement réussi parce que je sais que c'est pas facile pour eux de s'exprimer. Et je le fais avec d'autant plus plaisir qu'on est le 14 juillet. Le 14 juillet, c'est l'anniversaire de la prise de la Bastille, mais aussi de la fête de la Fédération. Et la fête de la Fédération, en 1790, c'est la fête de l'unité nationale et de la réconciliation. Et je pense que cette ISF climatique, ça pourrait être un vrai signe d'unité nationale et de réconciliation.
Eh bien voilà, une proposition posée dans le débat avant la présidentielle. Cette ISF climatique, proposition d'Oxfam que vous dirigez, Cécile Duflot, la voix de gauche d'RMC. Demain, ce sera au tour de la voix de droite, Louis Sarkozy. Dans un instant, le journal de 8h avec à la une ce compte à rebours avant la demi-finale des Bleus France-Espagne. Ce soir, nous serons à Dallas sur place où on jouera cette demi-finale. Et puis juste après, le journal L'Économie avec vous, Emmanuel Lechypre. Bonjour, bonjour Emmanuel, on est 14 juillet, où en est la France du financement de sa défense?
Eh bien justement, le réarmement de la France, ça restera comme un des éléments majeurs du bilan des 10 ans d'Emmanuel Macron à l'Élysée.
La météo, il va encore faire chaud aujourd'hui, température en hausse même dans le sud-ouest. A tout de suite.
RMC jusqu'à 9h.
Apolline Matin.
Il est presque 8h sur RMC, soyez tous les bienvenus, bon réveil.
RMC, Apolline Matin.
Le journal avec Quentin Vinet. Bonjour Quentin.
Bonjour Sébastien, bonjour à tous. Dallas et son univers impitoyable, plus que jamais ce matin, puisque c'est là-bas que se jouera ce soir la demi-finale du mondial entre la France et l'Espagne. La bête noire des Bleus, eux répètent qu'ils n'ont pas peur des Français. On y sera en direct dès le début du journal. Nous serons également en forêt de Fontainebleau avec les toutes dernières informations sur le feu qui progresse encore ce matin. Quasiment 2000 hectares parcourus. Et nous serons à Nice au matin des commémorations des 10 ans de l'attentat de la promenade des Anglais.
8h et nous y sommes ce matin dans le dernier carré.
RMC,
radio officielle de la Coupe du Monde de la FIFA 2026.
Et c'est une longue journée d'attente qui commence encore une fois jusqu'à la demi-finale ce soir entre la France et l'Espagne. Le coup d'envoi à 21h à Dallas où se trouve déjà Jean-Louis Tour qui commentera le match ce soir pour RMC. Jean-Louis, on retrouve encore une fois l'Espagne contre qui la France, on a beaucoup de mal.
Oui, surtout ces derniers temps. On reste sur deux défaites à chaque fois en demi-finale. D'abord de l'Euro, puis de la Ligue des Nations. Alors c'est suffisant pour donner une grande confiance à la star espagnole, Lamine Yamal.
Après notre qualification en demi, on m'a demandé si j'avais peur de la France. J'ai dit que non, évidemment. On est champion d'Europe et on n'a jamais peur.
Mais les Français ont des arguments à opposer, fort de leur parcours quasi parfait, avec la meilleure attaque de la Coupe du Monde, la deuxième meilleure attaque de la Coupe du Monde, et aucun but encaissé sur les matchs à élimination directe. Le milieu de terrain, Adrien Rabiot.
Déjà, ça reste du football, on craint personne, évidemment, et on arrive sur une demi-finale dans les meilleures conditions possibles. Mais en tous les cas, on a mis tous les joueurs de notre côté pour arriver dans les meilleures conditions.
Voilà, la suite du parcours, c'est donc cette demi-finale. Alors même si la France commence à être habituée à ce stade de la Coupe du Monde, ce sera la 8e de l'histoire. Un tel rendez-vous n'est jamais anodin. Et pour l'événement, les Bleus pourront compter sur quasiment toutes leurs armes. Tchouaméni, revenu de blessure. Mbappé, qui sera à 100% des chances et voulu rassurant hier, après que le meilleur buteur français ait écourté sa séance d'entraînement hier soir à Dallas.
Jean-Louis Tour, en direct des États-Unis ce matin, on vous dit à ce soir, Jean-Louis, 21h pour le coup d'envoi de ce match que vous allez commenter évidemment en intégralité sur RMC. Alors tiens, question, qui est favori ce soir? Écoutez le sélectionneur Didier Deschamps qui visiblement a fait LV2 espagnol.
Espagne a confirmado de ser el favorito.
L'Espagne favorite selon Didier Deschamps. Et voilà ce qu'on en pense tiens, de cette demi-finale ici à Bordeaux avec notre correspondant RMC Pierre Borges. Ou comme ailleurs en France, il y a de plus en plus de monde devant le match des Bleus et ça va se ruer en ce soir en terrasse pour voir la demi-finale.
Au petit jeu des pronostics, Anas et son oncle Lies parient sur une large victoire de la France.
2-1 ou 3-1 ou je pense 4-1.
Bah, je pense que la France va choquer l'Espagne, je vais dire 3-1 ou 3-0.
Il faut dire que les Bleus ont conquis le cœur de ces deux supporters.
Bah, moi, je te trouve incroyable. Le niveau de jeu, franchement, parfait. C'est tout ce qu'on demandait à Deschamps. Quand on les voit, franchement, ça nous donne envie de les supporter à fond, quoi. C'est magnifique à voir.
Pour Emma, qui suit un peu moins le foot, c'est la bonne humeur contagieuse des Bleus qui l'a séduite.
On sent que l'équipe, elle est soudée et qu'ils s'entendent tous bien. Donc,
Ça donne quand même envie de les supporter, les Bleus.
Même constat pour ces Bordelais qui remarquent l'influence des footballeurs sur l'humeur des supporters français.
Je trouve ça fabuleux, franchement. En fait, je trouve que c'est très souvent à ce moment-là où il y a du coup des matchs où on est très souvent très soudés et tous de très de bonne humeur.
De plus en plus, les Français s'identifient à cette équipe, vu qu'elle est beaucoup cosmopolite, c'est encore plus plaisant.
En tout cas, tout le monde s'attend à ce que les Bleus décrochent ce soir leur ticket pour la finale.
Allez les Bleus, allez, les Bleus, allez, on est ensemble.
Allez les Bleus, 21h ce soir sur RMC, vous ne raterez rien, évidemment, à l'écoute de la radio officielle. Et c'est vrai que tout le monde n'aura pas forcément la tête à ça. On pense évidemment ce matin aux pompiers, aux sinistrés du feu qui continue de progresser dans la forêt de Fontainebleau.
Les flammes qui ont parcouru 1900 hectares depuis dimanche, selon le tout dernier bilan des 850 pompiers toujours mobilisés ce matin, aidés par 4 canadaires qui écopent depuis hier dans la Seine. Les images sont impressionnantes. Rachel Sadodine, on vous retrouve en direct pour RMC depuis Achères-la-Forêt, une des communes en lisière de ce feu, où les pompiers font tout ce qu'ils peuvent pour arrêter la progression des flammes.
Oui, mais le vent continue de souffler ce matin aux abords de la forêt de Fontainebleau et ça ne facilite pas la tâche des pompiers. Autre difficulté, les soldats du feu peinent à atteindre l'incendie, terrain difficilement accessible à cause du dénivelé. Ils espèrent donc pouvoir déployer aujourd'hui des bulldozers de l'armée pour faciliter les choses. Et pendant ce temps-là, les près de 1000 évacués ne peuvent toujours pas regagner leur domicile. Plusieurs dizaines viennent de passer leur deuxième nuit ici à la salle des fêtes d'Achères-la-Forêt. Certains dorment encore, d'autres prennent un café, large cerne sous les yeux, visage fermé. Ces riverains ne souhaitent pas s'exprimer au micro ce matin, épuisés. Inquiets aussi de l'état dans lequel ils vont retrouver leur maison. Ceux qui ont encore un toit viennent leur apporter le petit déjeuner comme Christine. Elle est arrivée avec des pains au chocolat. La sexagénaire a toujours vécu à Achères et elle a le cœur lourd.
C'est une vieille famille de Achères. On n'a jamais vu ça, c'est horrible pour notre forêt et puis pour nos habitants.
Là on voit encore la fumée sous nos yeux.
Ouais, oui. Oui, c'est comme ça depuis deux jours. Moi, de chez moi, je voyais les flammes. Ça a été très impressionnant. Les nuits sont courtes. C'est vrai que c'est difficile. Ça me fait mal au cœur. Ce ne sera plus jamais la forêt de Fontainebleau. Ça brûle partout, là.
Les pompiers annoncent ce matin d'importants moyens mobilisés en lisière de forêt, notamment avec un objectif, fixer le feu dans la journée, grâce aussi à l'aide de 4 canadaires et un avion bombardier d'eau.
Et donc l'image impressionnante de ce panache de fumée toujours ce matin au-dessus de cette forêt de Fontainebleau à même pas 60 km au sud-est de Paris. Alors dans la soirée, le ministre de l'Intérieur, Laurent Nunez, qui a annoncé une soixantaine d'interpellations partout en France là pour tous les départs de feu. Deux pour ceux là autour de Fontainebleau, notamment un jeune de 18 ans, est en possession d'un briquet et les mains recouvertes de suie au moment de son interpellation. Alors c'est à cause des risques d'incendie que de nombreuses villes ont décidé d'annuler leur feu d'artifice du 14 juillet. Eh bien, c'est pourtant ce qui s'est passé hier soir à Lourdes. On a frôlé la catastrophe. Le feu d'artifice a déclenché un incendie, heureusement, qui a été maîtrisé au pied du château. C'était un double 14 juillet qui commence pour Emmanuel Macron. Oui, le président est ce matin à Paris pour son tout dernier défilé sur les Champs-Élysées. En tant que président, il entend marquer le coup puisque ce sera le plus massif de ces deux quinquennats, nous dit l'Élysée. L'Ukraine à l'honneur, 6700 troupes à pied pour symboliser le réarmement de la France. La nouveauté, ce sont les QR codes obligatoires pour le public pour accéder aux champs là ce matin. Alors ils ont été annulés hier en fin de journée par la justice administrative avant d'être rétabli durant la nuit par le Conseil d'État. Et alors ce soir, Emmanuel Macron sera à Nice pour le point d'orgue des commémorations de l'attentat de la promenade des Anglais qui avait fait 86 morts il y a 10 ans. On se souvient tous de cette terrible image de ce terroriste qui fonce dans la foule à bord d'un camion. Romain Houx, ce matin pour RMC, vous nous dites que c'est une longue soirée d'émotion qui attend les Niçois.
Oui, avec une cérémonie qui doit débuter à 18h, place Masséna, où Emmanuel Macron sera aux côtés de ses prédécesseurs François Hollande et Nicolas Sarkozy pour des commémorations qui doivent débuter par la projection d'une vidéo hommage aux victimes, avant que 43 enfants et 43 des premiers secouristes et forces de l'ordre intervenus viennent déposer un rameau d'olivier sur 86 chaises vides, représentant les 86 victimes de cet attentat. La plus jeune avait à peine 2 ans, la plus âgée 79, près de la moitié était étranger. C'est la première fois depuis 2017 qu'Emmanuel Macron assiste à la cérémonie. À l'époque, il avait commémoré le premier anniversaire de cet attentat de la promenade des Anglais. Sa présence compte pour Stéphane Herbs, victime et coprésident de l'association Promenade des Anges, mais ça ne suffit pas à effacer toute amertume. Écoutez, il était invité d'RMC ce matin.
C'est un pas important. Moi, je l'avais rencontré le 11 mars lors de la journée nationale et il m'avait garanti qu'il venait pour les commémorations. Mais bon, les victimes de l'attentat et l'attentat dans sa globalité sont complètement oubliées. Depuis 8 ans, il y a eu un réel désintérêt de toutes les commémorations et au-delà des commémorations, de tous les combats qu'on porte.
Et à 8000 km de là, avant le coup d'envoi de France-Espagne, 21h ce soir à Dallas, une minute de silence sera observée par le stade et les joueurs. La journée d'hommage terminera à 22h34, heure à laquelle le camion s'est arrêté. 86 faisceaux bleus seront alors braqués en direction du ciel niçois.
Et je précise que 70 000 policiers et gendarmes sont déployés partout en France pour sécuriser à la fois le 14 juillet et la demi-finale de la Coupe du Monde ce soir.
Sans oublier le Tour de France et le 14 juillet, c'est toujours particulier sur le Tour qui reprend aujourd'hui dans le Massif Central.
10e étape, 166 km, ça promet entre Aurillac et le Lioran. Journée épuisante vraiment qui attend les coureurs parce que ce sera sous la chaleur et qu'en plus, il y aura 3800 mètres de dénivelé positif. C'est énorme, c'est digne d'une très grosse étape de montagne. En fait, ça va monter et descendre toute la journée. 7 difficultés répertoriées. Habituellement, en effet, les Français veulent briller le 14 juillet. Mais alors là, eh ben, ce sera compliqué, nous dit Baptiste Weistrofer, le chouchou de la première semaine qui n'a pas arrêté d'attaquer.
Vous avez vu l'étape ou quoi? Tranquille, hein. Ouais, je pense qu'il y a un mec, notamment Pogacar, je pense qu'il va plutôt briller. C'est une étape très très dure, celle-là, du 14 juillet. Mais j'espère que des Français vont bien briller. Romain Grégoire ou Martinez, ça peut les intéresser, cette étape-là. Et c'est sûr qu'un 14 juillet, un Français a encore plus de jambes.
La dernière victoire française un 14 juillet, c'était Warren Barguil en 2017. Et alors là, on est au lendemain de la journée de repos à Aurillac, qui n'a pas été reposante du tout pour certaines équipes qui se plaignaient de ne pas avoir la clim à leur hôtel. Il y a des Norvégiens qui ont même passé la nuit à la Belle Étoile.
Quentin Vinet pour le journal 8h09 sur RMC, RMC Story, direction les Champs-Élysées. 14 juillet, jour de défilé, et Apolline de Malherbe est sur place. Bonjour Apolline.
Salut Sébastien, bonjour à tous. Oui, je suis là, je suis avec vous ce matin, mais je suis effectivement depuis le bas des Champs-Élysées, place de la Concorde, où on attend le défilé. Derrière moi, c'est déjà les préparatifs. À 8h30 dans le face-à-face tout à l'heure, mon invité, ce sera la ministre des Armées, Catherine Vautrin, avec évidemment un certain nombre de questions, notamment sur ce défilé, un défilé XXL, tout est plus cette année. Plus de monde, plus de soldats, plus de matériel, plus d'avions. Et pourquoi? Eh bien parce que la menace également est plus grande, deux fronts en particulier, l'Iran d'un côté, l'Ukraine de l'autre. L'Ukraine, Volodymyr Zelensky, vous le savez, est à Paris depuis hier. Il sera à la tribune aux côtés du président Emmanuel Macron. Je poserai la question donc à Catherine Vautrin de ces menaces, l'expression aussi utilisée par Emmanuel Macron hier, qui disait que l'Europe était prête à se défendre, y compris par le sang, s'il fallait défendre ses propres valeurs, la liberté, la démocratie. Ces questions-là, je les pose à Catherine Vautrin, donc à 8h30 sur RMC.
À tout à l'heure, Apolline, 8h30, le face-à-face donc avec la ministre des Armées, Catherine Vautrin, en direct depuis la place de la Concorde. La défense, on va justement en parler avec Emmanuel Lechypre.
RMC, Apolline Matin,
le chiffre d'affaires.
Bonjour Emmanuel Lechypre.
Bonjour à tous.
Le réarmement de la France, le budget de la défense qui restera comme l'un des actifs majeurs du bilan des 10 ans d'Emmanuel Macron à l'Élysée.
Oui, lorsqu'il devient président de la République en 2017, le pays dépense un peu plus de 32 milliards par an pour ses armées, somme qui aura doublé pour atteindre 64 milliards en 2027. Ça représente à peu près 2% du PIB. Il faut rappeler qu'en 1956, la France dépense encore plus de 6% de sa richesse nationale pour sa défense. Il faut alors financer les guerres coloniales, mais au fil des années, l'effort ne va cesser de diminuer. Sauf dans les années 70, lorsque la France bâtit sa dissuasion nucléaire. Au milieu des années 80, on est à presque 3,5% du PIB d'efforts militaires. Puis survient la chute du mur de Berlin, la fin de la conscription. Le point bas est atteint au début des années 2010, 1,8% seulement de la richesse nationale dépensée pour nous défendre des menaces extérieures. Et puis la suite, on la connaît, c'est la guerre en Ukraine, c'est l'augmentation des conflits dans le monde. Il y en a 65 aujourd'hui, c'est un record depuis l'après-guerre. Les relations qui se détériorent avec l'allié américain sous Donald Trump, il faut donc réarmer le pays.
Et est-ce que l'effort est aujourd'hui suffisant?
Alors la loi d'actualisation de programmation militaire 2024-2030, adoptée au mois de juillet, injecte 36 milliards d'euros de ressources nouvelles sur la période 2026-2030, 10 000 recrutements de prévus, avec trois priorités, les stocks de munitions, les drones et la défense antiaérienne. En termes d'effort, ça reste inférieur à ce que font les pays du nord de l'Europe, Pologne en tête, hein, la Pologne dépense plus de 4% de son PIB pour sa protection. Ça se rapproche par contre de ce que font l'Allemagne et le Royaume-Uni. L'atout de la France, c'est qu'elle peut compter sur l'industrie de défense la plus complète et la plus puissante d'Europe. Des avions de combat aux sous-marins, en passant par les radars et les missiles. Principal défi maintenant de cette industrie de la défense, c'est de produire plus et surtout de produire plus vite.
On termine comme tous les matins avec les chiffres du jour et avec le regain de tension dans le Détroit. J'imagine qu'ils ne sont pas forcément très bons.
Eh non, tout remonte. Hein. Le sans-plomb 95, on est désormais à 1,94€ le litre. On a gagné 4 centimes en une semaine. Le gazole tutoie à nouveau les 2€, 1,99€ en moyenne. Le pétrole, on est remonté à presque 85$ le baril. On a gagné 13$ en 10 jours. Et puis le gaz, lui, est en hausse de plus de 20% depuis fin juin.
Merci beaucoup Emmanuel Le Chiffre. Et on vous attend tiens, au 32-16. Est-ce une bonne décision investir dans notre défense? Et tiens, comment de façon générale vous voyez nos armées et ce défilé sur les Champs-Élysées? Il y a ce sondage qui sort ce matin. 80% des Français considèrent le défilé militaire comme un symbole important de l'identité nationale. Et alors 9 Français sur 10 ont une image positive de nos armées. Et vous, tiens, qu'en pensez-vous? On vous attend au 32-16. Vous nous écrivez aussi sur le WhatsApp RMC 06 12 424 424. Il est 8h13.
RMC jusqu'à 9h.
Apolline Matin.
Et dans un instant, Arnaud Demange qui va nous faire rire avec l'actualité à 8h30. Le face-à-face depuis les Champs-Élysées avec Apolline de Malherbe et la ministre des Armées Catherine Vautrin. Et juste après, le choix de la rédaction, le brevet pour devenir animateur de colo, de centre aéré, en plein boom chez les jeunes. Reportage à suivre avec des stagiaires. Et puis on aura les toutes dernières infos avant la demi-finale. Le choc France-Espagne à 21h à suivre sur RMC. Et puis on vous attend au 32-16. Vos pronostics, vous êtes confiant pour ce soir? On vous attend, à tout de suite.
RMC, Apolline Matin.
RMC, Apolline Matin.
C'est tous les jours de manche.
C'est tous les jours de manche, même quand Arnaud Demange est en vacances, il est avec nous, on vous a gardé le meilleur. Arnaud qui nous souhaite à sa manière un bon 14 juillet.
Merci Apolline de ce magnifique lancement, c'est très français. Apolline et moi, nous sommes français. Et en France, les amis, on ne fait pas la guerre pour du pétrole ou de l'uranium. Non, en France, la guerre est plus sophistiquée, plus noble. La guerre, elle est aux éditions Grasset. Après le renvoi de l'éditeur Olivier Nora par Vincent Bolloré, on s'en fout de votre Détroit d'Ormuz et du prix de l'essence. Nous, c'est la littérature, notre carburant. C'est la France. La crise du sans-plomb chez nous, c'est quand il n'y a plus de livres chez Plomb. Voilà. On dit merci qui? Merci Albin et Michel.
Oh non. Arnaud, le conflit au Moyen-Orient, on continue.
Oui. Oh là là. Ah, oh, ouais, quelle histoire, hein. Et hein?
Ouais.
Bah ouais.
Bah voilà.
Et ouais. Si vous cherchez un expert pour le 9h-10h, Apolline, je suis là. Je suis dispo.
Formidable.
Non mais ça va être long jusqu'à juin de trouver des blagues tous les jours sur le même sujet. Et en plus, c'est une guerre, quoi. La vie était plus sympa quand on parlait du renflement brun de Bruno Le Maire. C'est le bon vieux temps. Bon, blague à part, le Détroit d'Ormuz était ouvert vendredi. Trump annonçait fièrement « L'Iran a accepté de ne plus jamais fermer le Détroit. Good people. » 3 heures plus tard, l'Iran fermait le Détroit.
Voilà.
Good people. Pour protester contre le blocus américain, l'Iran ferme parce que les Américains ferment. Mmh. Voilà. C'est comme quand la CGT bloque une usine qui ferme.
Oui.
Ils arrêtent le patron, ils font « Vous rentrez pas, c'est fermé !»«
Je sais, c'est moi qui ferme.
» Non, c'est nous. Non, c'est moi. Non, c'est nous. Ok, et les ouvriers, c'est eux qui ferment. Non, pas comme ça. Bon, ouais, c'est très confus. Même la poste à côté de chez moi, elle est plus souvent ouverte que le Détroit d'Ormuz.
Ah oui, c'est vrai.
Le Détroit d'Ormuz, en ce moment, dirait Christian Clavier dans Les Visiteurs. T'es ouvert, fermé, ouvert, fermé, ouvert, fermé.
Jour. Ça devient casse-pied.
Ouais, nuit. Trump, c'est casse-couille, la fripouille. Il a les méthodes médiévales et il panique en face des Sarrasins. C'est le même.
En plein conflit autour du travail du 1er mai, Sophie Binet veut faire du 8 mars un nouveau jour férié.
Oui, la secrétaire générale de la CGT propose un jour férié lors de la Journée internationale de lutte pour les droits des femmes. Alors, économiquement, on n'a peut-être pas les moyens de s'offrir ça. Je propose de couper la poire en deux. On ferait un jour où seuls les hommes travailleraient.
Ah ouais?
Ouais. Les femmes resteraient à la maison. Ça veut dire que le nombre de DRH qui vont débarquer dans les bureaux en disant « T'oublies pas Jean-Pierre, hein, demain, Sylvie, elle bosse pas, mais toi, t'es là. Et le gars, il va répondre.
Je sais pas ce qui vous fait dire que je suis un homme, mais je...
La cause trans va progresser à une vitesse. En tout cas, c'est l'occasion de se détendre avec un petit queer.
Oh là.
Pardon, un petit quiz.
Ah oui.
Un petit quiz. Ce jour férié existe-t-il ou non? À gagner, Apolline, un jour férié, un jour de congé de plus offert par notre direction. Attention, ce jour de congé existe-t-il? C'est parti. Chaque 5 avril, les Taïwanais vont danser sur les tombes de leurs ancêtres.
Oh non.
Oui, si, c'est vrai.
C'est vrai, c'est vrai. Non. Mais non, c'est beau ça.
Les Texans ne vont pas travailler le jour du cholestérol day, puisque ce jour-là, ils meurent.
Non, c'est tous en groupe.
Chaque second dimanche d'août, le Turkménistan célèbre le melon.
Ah, oui, ah, oui, oui.
C'est vrai.
Pas l'inventer, c'est ça.
Au Liban, on célèbre le 1er juin 2001. À chaque 1er juin, seule journée depuis 50 ans sans bombardement. Le 8 mai et le 11 novembre ne sont pas fériés en Suisse.
Bah c'est
vrai. C'est vrai. Ouais. Ça leur apprendra à rester neutre.
Voilà. Pour eux, ils en ont perdu
au Dagestan, le 18 mars, c'est férié. C'est la journée du rat où on écrase des rats vivants en sautant.
Non, c'est, fou, si. C'est pas possible.
Non, c'est pas possible.
Arnaud Demange, que vous retrouvez quand vous voulez en podcast à tout moment sur RMC et sur rmc.fr. Allez, on retourne au 32-16 à 8h20 sur RMC avec Ali qui nous appelle depuis la Loire. Bonjour Ali.
Bonjour, salut à tous.
Salut Ali. Alors, est-ce que vous y croyez à cette place en finale de Coupe du Monde?
Ah, c'est sûr qu'on y croit. Sinon, on ne serait pas autant hypé ce matin.
Qu'est-ce qui est prévu pour ce soir?
Eh ben, ce sera en famille avec madame et les enfants, tranquillement, comme depuis le début de cette Coupe du Monde. On va leur répondre à toutes ces questions. C'est quoi un hors-jeu? Pourquoi il y en a? Mais bon, on fera avec, hein. On fera avec.
Alors, depuis ce matin, au 32-16, on entend des pronostics à 2-0, à 3-1. Qu'est-ce que vous en pensez? Quel est votre prono?
Ah, je mettrais, ouais, je vois bien un petit 3-1. Je pense que on a un duel de stars entre Yamal et Mbappé. La seule différence, c'est qu'il y en a une, c'est une étoile filante et l'autre, c'est l'étoile du berger. Je vous laisse deviner laquelle est laquelle.
Ça veut dire que vous avez confiance dans notre trio d'attaquants. L'Espagne n'arrivera pas à gripper la machine.
Ouais, pourquoi on va commencer à stresser? On a la meilleure attaque de cette Coupe du Monde. On a une défense espagnole, on sait pas trop ce qu'elle vaut parce qu'elle a pas eu d'adversité offensive. Donc
moi, ils ont pas pris beaucoup de buts, hein. Ils en ont pris qu'un, hein. Ils ont pris qu'un seul but depuis le début.
Ils ont pas joué contre deux grands attaquants non plus, donc c'est pour ça que c'est compliqué de jauger leur défense. Mais quand on connaît les joueurs et leur parcours en club, pour moi, ils mettraient absolument pas les Espagnols.
En confiance, Ali, au 32-16, on a aussi des messages, Victor, sur le WhatsApp RMC.
Et ce qui est beau avec le WhatsApp RMC, c'est qu'on voyage partout. On avait Michel sur le WhatsApp qui nous écoute depuis la Finlande et c'est là qu'il regardera le match ce soir. On avait aussi un auditeur, tiens, dans le morning qui nous appelait de Miami. Et puis tout le monde y va de son pronostic. Je vais pas vous mentir, j'ai vu aucune victoire de l'Espagne sur le WhatsApp d'RMC. On a quand même Chetano, un pseudo, j'imagine, qui réagit aussi à ce que nous disait Daniel, qui était un peu plus prudent que nous, hein, sur le résultat de ce match, qui nous disait attention quand même à l'Espagne et il nous dit oh, quel rabat-joie ce Daniel Riolo, allez les Bleus. Ben oui, mais c'est aussi l'expérience qui parle, il faut pas non plus être trop confiant.
Ouais. Tout aussi confiante Virginie Fulpin ou pas?
Moi mon vrai problème c'est que j'arrive jamais à faire un pronostic objectif, c'est-à-dire que je ne peux pronostiquer que ce que je veux qui arrive, donc vous devinez ce que je vais vous dire.
On en est tout ça,
je pense que l'équipe de France va gagner, je pense que ce sera pas si simple que ça. 2-1.
Bon, et ben voilà. On espère ne pas vivre surtout les prolongations et les tirs au but.
Non, c'est
pas
difficile.
De match, pas de scénario de l'enfer, s'il vous plaît. Merci et merci à Ali au 32-16. Le face-à-face sur RMC dans un instant. Apolline Desmalherbes depuis les Champs-Élysées qui reçoit la ministre des Armées Catherine Vautrin juste avant le défilé militaire. 8h23.
RMC jusqu'à 9h.
Apolline Matin.
Merci d'écouter RMC, il est 8h25.
RMC, Apolline Matin.
Le rappel des titres avec Clément Gouitz.
La forêt de Fontainebleau brûle toujours. Cela fait plus de 24 heures que les 850 pompiers luttent contre ce feu d'origine volontaire. Feu qui progresse et a déjà parcouru plus de 1900 hectares. De nombreux moyens ont été déployés. Canadair, hélicoptères, bombardiers d'eau. Les rotations aériennes ont repris ce matin. Deux personnes ont été interpellées, notamment un jeune de 18 ans en possession d'un briquet. Un 14 juillet hors norme se prépare sur les Champs-Élysées. Le dernier défilé militaire présidé par Emmanuel Macron doit débuter à 10h. Et l'Ukraine sera à l'honneur avec un message clair, afficher le réveil européen en présence d'une trentaine de chefs d'État. Le QR code est bien rétabli pour assister à ce défilé après une première suspension hier par le tribunal administratif. Le Conseil d'État a validé cette nuit cette mesure de sécurité exceptionnelle voulue par la préfecture de police. Emmanuel Macron sera également aujourd'hui à Nice en fin d'après-midi pour les commémorations des 10 ans de l'attentat sur la promenade des Anglais qui a fait 86 morts et plus de 400 blessés. Une cérémonie est prévue à 18h. Et tous derrière les Bleus ce soir, les hommes de Didier Deschamps défilent l'Espagne en demi-finale de la Coupe du Monde à Dallas. Coup d'envoi à 21h, RMC en direct des États-Unis toute la nuit de 20h à 5h du matin. La météo, 26 départements en vigilance rouge de l'Île-de-France au Tarn. Encore une journée très chaude, souvent ensoleillée avec toutefois quelques passages nuageux sur une bonne moitié nord. Quelques averses possibles sur le nord-est et la Bretagne, des orages sur le massif central et Pyrénées. Les températures cet après-midi, il fera 25 degrés à Cherbourg, 28 au Havre, 36 à Paris et 39 à Lyon.
C'était le rappel des titres de Clément Gouitz dans un instant sur RMC et BFM TV. Le face-à-face à Pauline de Malherbe en direct depuis les Champs-Élysées ce matin avant le défilé du 14 juillet avec son invité, la ministre des Armées, Catherine Vautrin.
RMC jusqu'à 9h.
Apolline Matin. Face à face.
Apolline de Malherbe.
Bonjour Madame la Ministre.
Bonjour Apolline
Catherine
de Malherbe.
Catherine Vautrin, vous êtes ministre des Armées et des Anciens Combattants. Merci de répondre à mes questions sur RMC et BFM TV, en direct évidemment du bas des Champs-Élysées, juste avant le défilé du 14 juillet dernier, 14 juillet d'Emmanuel Macron. Un défilé XXL, et vous insistez beaucoup là-dessus. Est-ce que ça veut dire que la menace aujourd'hui, elle est aussi XXL ?
C'est vraiment le défilé du réveil stratégique européen. C'est tellement vrai que vous verrez tout à l'heure 35 chefs d'État, de gouvernement qui sont à Paris aujourd'hui, après une réunion de la coalition des volontaires hier. C'est donc vraiment la démonstration de la mobilisation européenne, notamment aux côtés de l'Ukraine.
J'ai pas très bien compris ce que ça voulait dire, le réveil stratégique. Est-ce que ça veut dire qu'avant, on était endormis ?
Nous n'étions pas endormis, mais nous sommes encore plus rassemblés. La réunion d'hier a montré la volonté de continuer dans la suite logique du G7 d'Évian, de la déclaration d'Ankara la semaine dernière, hier réunion de la coalition des volontaires, et on voit cette Union européenne prête à accompagner l'Ukraine dans une recherche qui est évidemment une recherche de paix. Et cette recherche de paix, elle s'organise avec bien évidemment la coalition des volontaires et une nouvelle coalition proposée par les Ukrainiens hier, qui est la coalition anti-balistique.
Et Volodymyr Zelensky d'ailleurs sera présent ce matin. Cette expression du président de la République hier, Emmanuel Macron, qui dit « L'Europe est en train de devenir une puissance. Le message que nous envoyons au monde est le suivant. Oui, la paix est notre but. Oui, nous chérissons la liberté et le droit. Et oui, nous nous tenons prêts à combattre pour les défendre toujours et au prix du sang s'il le faut, au prix du sang s'il le faut. »
Mais vous savez ce que dit le président de la République, c'est que l'Europe, 450 millions d'habitants, c'est un continent. Et l'Europe rassemblée est en capacité de parler avec les pays continents. Et je pense à la Russie, je peux penser à la Chine, je peux penser aux États-Unis. Après, évidemment, et c'est l'hommage que nous devons rendre avec tous les Français à nos militaires aujourd'hui, les militaires sont engagés jusqu'au sacrifice ultime. Je suis ministre des Armées depuis 9 mois. J'ai présidé 4 hommages funèbres. C'est dire si effectivement nos soldats sont engagés. Et il est logique que ce 14 juillet soit évidemment le lien armée-nation, mais toute la reconnaissance de la nation pour nos armées.
Vous avez d'ailleurs reçu hier avec Emmanuel Macron des familles endeuillées. Vous avez vu les familles de ces soldats, soit blessés, soit effectivement morts pour la France. Ce réveil stratégique dont vous nous parlez, c'est face à quelle menace ? La Russie d'abord ?
Mais la Russie est bien sûr une menace pour l'Ukraine. Et notre objectif,
c'est... Pour l'Ukraine ou pour la France ?
D'abord, en premier lieu, pour l'Ukraine et pour l'Europe. Et donc, quelque part, ce qui se passe en Ukraine joue la sécurité du continent européen. Et la mobilisation du continent européen, c'est évidemment la paix en Ukraine et la paix sur le continent. Et c'est cela que nous jouons et c'est le sens aujourd'hui de l'implication de la France et de tous les pays
Est-ce
européens.
Est-ce qu'on est en tête de cette coalition ? C'est-à-dire qu'au fond, on parle toujours de cette coalition, mais nous sommes les seuls à faire un défilé d'abord de cette ampleur. Depuis toujours, c'est une tradition très française. C'est aussi une forme de dissuasion, c'est-à-dire montrer de quoi on est capable, montrer notre puissance, faire une démonstration de force.
Comme vous le savez, la France, depuis maintenant plus de 60 ans, a toujours fait le choix de la souveraineté pour sa défense et pour ses armées. Avec une souveraineté qui repose sur deux piliers, la dissuasion, nous sommes les seuls en Europe à avoir une dissuasion opérationnelle, qu'elle soit aéroportée ou qu'elle soit navale, et puis bien évidemment, une armée conventionnelle. Et c'est tout le sens, en fait, de cet effort et de cette volonté du lien armée-nation que ce 14 juillet et ce défilé qui fait partie intégrante de la stratégie française. Parallèlement à ça, ce que l'on voit aujourd'hui, c'est que l'ensemble des pays européens voient la nécessité d'être capables d'interopérer, d'agir ensemble. Et c'est ce que nous faisons avec la coalition des volontaires hier, avec finalement maintenant la coalition anti-balistique avec les Ukrainiens. Donc ce sont les Européens mobilisés pour la paix.
Mais on peut continuer à œuvrer seul. C'est-à-dire que, au fond, la question qu'on se pose aussi ce matin, c'est que est-ce que c'est encore un défilé français ou est-ce que c'est un défilé européen ?
Vous le savez, la défense est une compétence de chacun des États. Ensuite, en matière de capacité, il est intéressant à la fois d'avoir des réponses souveraines, mais d'être interopérable. Comment voulez-vous être ensemble dans une opération de défense si vous n'êtes pas interopérable ? Et c'est bien pour cela que nous travaillons dans cet esprit avec la coalition anti-balistique, avec des avions qui peuvent travailler ensemble, avec des armées qui s'entraînent ensemble. Quand nous sommes nation cadre pour l'OTAN, par exemple, en Roumanie, ou que nous sommes aux côtés des Britanniques en Estonie, typiquement, c'est l'exemple de la capacité des pays européens à être interopérables. Et nous aurons, à l'automne prochain, en Pologne, un très grand exercice qui, là encore, sera un exercice commun, comme nous avons eu au printemps dernier, dans le cadre de l'exercice Orion, des pays qui sont venus participer à Orion, je pense aux Belges, je pense aux Espagnols, je pense aux Grecs, tous sont venus. Orion est une opération qui a duré pratiquement 6 mois et nous avons eu des armées européennes qui sont venues à nos côtés pour s'entraîner.
Et je vais en venir évidemment aussi à la question des réservistes, à la question du service militaire volontaire que vous avez lancé, mais encore une question sur ce lien avec les autres pays et sur la question de la démocratie. Au fond, lorsqu'on a vu, par exemple, Viktor Orban, à un moment, qui n'avait pas les mêmes positions que les autres pays européens vis-à-vis de la Russie, dont vous nous redites ce matin qu'elle est aujourd'hui quand même l'une des menaces importantes, pas seulement sur l'Ukraine, mais sur le reste de l'Europe. Quand on sait que dans l'année qui vient, c'est donc le dernier, je le disais, défilé militaire présidé par Emmanuel Macron, parce qu'il y aura des élections dans l'année qui vient, il y aura un autre ou une autre président qui sera à cette tribune l'an prochain. Vous parlez souvent, pas forcément seulement vous, mais le camp présidentiel, du risque des extrêmes. Peut-être que ce sera l'extrême droite, l'extrême gauche qui sera au pouvoir à partir de mai prochain. Toute cette armée, est-ce qu'elle aura la même vocation ?
Vous savez, nous allons avoir un débat qui va être le débat d'élection présidentielle. Ce débat d'élection présidentielle, à mes yeux, aura un élément clé, la souveraineté. Quelle souveraineté les Français veulent-ils ? Souveraineté en matière de défense, souveraineté économique, souveraineté, bien évidemment, en matière environnementale, en matière financière. Et ça sera typiquement tout ce que nous devrons aborder.
Mais ce sera un outil exceptionnel, une arme exceptionnelle entre les mains du
futur ou de la future présidente. Absolument majeur à discuter pendant la campagne pour que les Françaises et les Français fassent un choix le plus éclairé possible. Après, si nous regardons l'histoire de notre pays, depuis 60 ans, la souveraineté en matière de défense a toujours été suivie, quel qu'ait été l'exécutif. Nous avons connu des alternances en France et systématiquement, jusqu'à maintenant, la dissuasion, par exemple, a toujours été suivie telle qu'elle avait été mise en place par le général de Gaulle. Ce qui veut dire qu'elle a évidemment évolué au fur et à mesure des années, mais le concept même de cette indépendance et de cette souveraineté n'a jamais été remis en cause. Et c'est important que nous puissions le dire aux Français, l'expliquer dans vos choix, il y a la notion de la souveraineté, du respect de la souveraineté de notre pays.
il y a la question des politiques et puis il y a la question des Français. Est-ce qu'ils sont au rendez-vous des deux appels que vous leur avez lancés, la question des réservistes et la question de ce service militaire volontaire?
Alors, si nous commençons par la réserve, nous avions en 2025 47 000 réservistes. Au moment où je vous parle, nous sommes à 51 000 pour un objectif fin 26 qui est un objectif de 52 000. Donc
vous
voyez que nous y sommes presque. Et je vois une importance tout à fait intéressante des Français qui prennent conscience de la nécessité de s'engager pour le pays. Le service national, là nous avons un objectif de 3 000 jeunes. Nous aurons ces 3 000 jeunes pour nos trois armées, c'est-à-dire armée de terre, armée de l'air et marine. Il faut encore continuer un peu l'effort pour la marine. Nous avons quasi...
Donc vous lancez un appel ce matin, ceux qui veulent s'engager.
Il y a encore de la place, ça devient compté pour l'armée de terre et pour l'armée de l'air. Il y a encore un peu de place dans la marine, mais dépêchez-vous quand même. Mais on sera heureux de vous recevoir, d'échanger avec vous, parce que si d'aventure il n'y avait pas de place cette année, il y en aura pour l'année prochaine.
Catherine Vautrin, ministre des Armées, ça veut dire effectivement des hommes, des femmes, des engagés, mais ça veut aussi dire des munitions, des armes, des chars, du matériel. Il y a eu évidemment cet effort en termes de budget. Est-ce qu'il y a un effort aussi en termes de souveraineté? C'est-à-dire que pendant longtemps, on se disait, est-ce qu'on sera dépendant des pièces détachées, de la fabrication à l'extérieur? Est-ce qu'aujourd'hui, on est en capacité d'être indépendant?
Vous avez raison, c'est une question fondamentale. On le rappelle, l'actualisation de la loi de programmation militaire, 36 milliards votés par les deux assemblées, c'est absolument majeur. 36 milliards entre 26 et 30. Maintenant, pour répondre précisément à votre question, à chaque fois que c'est possible, nous mettons en avant la souveraineté. Deux exemples récents, le lance-roquette unitaire devait avoir un successeur. Ce successeur sera français. C'est un groupement d'entreprises françaises. Deuxième élément, depuis les années 90, on ne produisait plus de poudre en France. Nous venons de signer un accord avec FN Herstal, qui est une entreprise belge, et nous allons en France reproduire...
Entreprise belge ?
Entreprise belge. C'est un groupement dans lequel il y a...
Mais qui fabriquera en France ?
C'est un groupement d'entreprises belges et françaises qui fabriqueront en France, et pour la première fois, on refera des munitions petit calibre, 5,6 mm. On n'en faisait plus depuis les années 90. Donc vous voyez qu'il y a là vraiment une volonté de groupement.
Ça va créer des emplois ?
Ça crée 20 emplois dans la Drôme.
20 emplois dans la Drôme. La question aussi, c'est pourquoi faire ? Il y a deux fronts. Je vais parler de l'Ukraine, effectivement, dans un instant, même si on l'a déjà évoqué. Mais il y a aussi l'Iran. Troisième nuit de frappe massive, à nouveau, entre les États-Unis et l'Iran cette nuit. Est-ce qu'on peut dire que la guerre a repris ?
Alors, je ne qualifierai pas le fait que la guerre a repris. Je dirais que nous avons assisté la semaine dernière aux hommages à Khamenei. On a vu que derrière, il y avait eu déjà des frappes, effectivement. Nous, notre volonté, c'est de rechercher, comme vous le savez, l'accord de paix. Et donc, tout ce que nous pouvons faire pour accompagner des pays qui sont attaqués, avec lesquels nous avons des accords de défense, c'est ce que nous faisons depuis mars dernier. Nous sommes prêts, le président de la République l'a dit, à déminer Hormuz. Nous avions reçu le sultan d'Oman.
On est prêts, mais on n'y va pas.
On ne peut y aller qu'avec l'accord et à la demande des pays concernés, et notamment avec Oman, puisque c'est Oman qui est l'une des deux rives du détroit d'Hormuz, comme chacun, je crois, le sait maintenant. Donc nous, notre volonté, c'est toujours de tout faire, d'une part pour évidemment le cessez-le-feu, et d'autre part pour la liberté de navigation. La liberté de navigation est pour nous un enjeu majeur.
L'Iran qui dit que le détroit d'Hormuz est, au moment où on se parle, fermé.
Mais aujourd'hui...
L'est-il ou non ?
Alors, écoutez, je ne suis, par définition, je suis place de la Concorde,
je
ne sais pas.
Mais
vous
j'imagine
dire.
Que vous avez des informations.
Je ne sais pas vous dire s'il est ouvert ou fermé, mais dans tous les cas, ce que je veux vous dire, c'est que la position française, c'est d'être en capacité, comme nous le sommes depuis début mars, prêt à aider pour la paix.
Le Charles de Gaulle, il est revenu à son port d'attache à Toulon. Est-ce qu'il a vocation à repartir?
Le Charles de Gaulle a fait 166 jours de mer, une mission exceptionnelle de la Baltique au détroit d'Hormuz. Et aujourd'hui, il est effectivement rentré à Toulon. Et je voudrais saluer les marins et l'engagement qui a été le leur pendant 166 jours.
Je vous repose la question. A-t-il à repartir.
Aujourd'hui, c'est une décision que seul le président de la République prendra ou pas. Ce n'est pas à l'heure du jour au moment où nous parlons.
Ce n'est pas à l'heure du jour, mais si on a besoin de nous pour la coalition, en tout cas, vous dites
avons nous avons d'autres moyens pour la coalition. Comme vous le savez, nous avons des frégates, nous avons, comme je viens de le dire, des démineurs. Nous avons ce dont nous avons besoin. Nous avons également des avions, comme vous le savez, nous avons des rafales stationnées, notamment aux Émirats Arabes Unis, prêts à intervenir à la demande des pays concernés.
Catherine Vautrin, Emmanuel Macron qui a redit hier cette phrase, être libre, être craint, être puissant. puissant, non par plaisir, mais par nécessité. Cette question de la menace russe, le fait de se montrer aux côtés de Volodymyr Zelensky, de l'inviter aujourd'hui. Vous avez peut-être entendu Xenia Fedorova, dont Jean-Noël Barrot dit qu'elle est, je cite, la propagandiste du Kremlin. Elle tient tribune sur CNews et dans le JDD, et elle dit: jusqu'où veut-on entraîner la France dans cette guerre, si l'on veut que ce conflit devienne aussi le sien, qu'on le dise clairement aux Français?
Mais
c'est quoi
nous,
ça
notre,
c'est
nous
une forme d'intimidation.
Nous ne sommes pas là pour entraîner la France dans la guerre, nous sommes là pour la paix. C'est toute la différence. La Russie a agressé l'Ukraine en 22. Depuis 22, les Ukrainiens subissent une guerre. Ils ont demandé aux Européens de les aider à se défendre, d'où les accompagnements en termes de formation, en termes de cessation d'armement, en termes d'organisation de coalition. Notre volonté, comme toujours, c'est la recherche de la paix et c'est l'accompagnement dans la défense. Nous n'agressons personne, nous défendons des agressés.
Alors, le Kremlin qui répond que cette coalition des volontaires, c'est la coalition des belliqueux.
Mais qui est belliqueux? Qui est allé agresser l'Ukraine? C'est bien la Russie.
C'est une manière, là encore, de jouer le rapport de force de la part du Kremlin?
Vous savez, je crois qu'aujourd'hui, ce qui est absolument fondamental, c'est notre capacité à montrer combien l'Europe est unie pour défendre sa sécurité. Parce que aujourd'hui, c'est l'Ukraine. Toute la question qui peut se poser, c'est qui demain? Et donc, quand nous défendons l'Ukraine, nous défendons la sécurité européenne. C'est ça le sens de l'engagement de la France aux côtés de l'Ukraine.
Catherine Vautrin, je voudrais aussi qu'on parle des incendies, parce que l'armée n'est pas en reste. Elle aide, elle soutient les secours. 2000 hectares détruits par les flammes cette nuit en forêt de Fontainebleau. Dans le cadre de l'opération Sentinelle, notamment, je crois qu'il y a un accompagnement par les soldats des pompiers, et la question aussi du commandement des pompiers. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus?
Alors,
est-ce que vous vous êtes engagé?
Deux exemples très concrets. C'est un dispositif dans le cadre de la mission Sentinelle qui s'appelle Héphaïstos, qui est entre autres basé au 7e risque à côté de Toulon. Et l'objectif, c'est d'apporter des moyens des armées, par exemple en termes de génie, quand il faut prendre des outils du génie pour ouvrir une route, nous savons faire. Quand un hélicoptère peut arriver sur zone avec évidemment des militaires entraînés capables de descendre de cet hélicoptère, aller sauver des personnes qu'il faut sortir de ces terrains menacés. Tout ça, nous savons faire et nous le faisons aux côtés des services départementaux d'incendie et de secours. Pour Fontainebleau, la brigade des sapeurs marins pompiers de Marseille a fait venir des personnes qui sont en fait des personnes qui gèrent les sinistres à Marseille, qui sont venues, donc des encadrants, qui sont venus en fait aider Fontainebleau parce qu'on n'a pas l'habitude en Seine-et-Marne de gérer ce type de feu. Donc ce sont des militaires, les sapeurs marins pompiers de Marseille, qui sont venus à Fontainebleau pour
aider. Et qui y sont en ce moment même.
Au moment où je vous parle, qui y sont.
Ils aident au commandement, ils aident à la coordination.
Ils aident à la stratégie.
Ils aident à la
aux
stratégie.
Aux côtés, bien évidemment, de tous les moyens de défense de sécurité intérieure.
Ils ont vocation à rester.
Vous savez, dans ce genre d'opération, tout le sujet, c'est évidemment de maîtriser le feu. Et je voudrais rendre hommage à toutes les équipes de tous les services départementaux d'incendie et de secours. Nous savons que c'est une année exceptionnellement difficile eu égard à cette troisième vague de chaleur. Nous avons une sécheresse terrible et une fois encore repasser grâce à vous ce message de prévention. Quand on voit le nombre de feux, ils sont pratiquement tous d'origine humaine. Donc chacun d'entre nous doit être particulièrement vigilant. Le meilleur feu, c'est celui qui ne démarre pas.
Sentinelle aux côtés donc des pompiers, Sentinelle aussi dans la lutte contre le terrorisme. On l'oublie presque, mais est-ce que aujourd'hui la menace terroriste est toujours très élevée en France?
Mais nous avons toujours une menace, c'est la raison pour laquelle évidemment les dispositifs Sentinelle sont toujours là, aux côtés des forces de sécurité intérieure. C'est ce lien entre l'armée et le ministère de l'Intérieur. Et nous avons en permanence des soldats qui effectuent des missions Sentinelle. Et vous imaginez qu'une journée comme aujourd'hui, nous avons effectivement, bien sûr,
un très gros dispositif de sécurité,
tout à fait.
L'Iran, est-ce que ça représente une menace, y compris sur notre sol?
Vous savez, je crois que les menaces sont plurielles. Nos services travaillent, et je voudrais là encore rendre hommage à des militaires dont on parle moins. Je pense à la DGSE, par exemple, à la direction également du renseignement militaire. Leurs travaux sont aussi secrets qu'efficaces et c'est eux qui nous accompagnent au quotidien et c'est eux qui veillent sur la sécurité du pays. Il est important de leur rendre hommage également.
Un dernier mot sur ce double 14 juillet, parce que c'est le 14 juillet évidemment traditionnel avec le défilé et c'est ce soir la demi-finale de la Coupe du Monde. C'est presque les mêmes valeurs, c'est-à-dire que c'est le drapeau, la Marseillaise, la fierté d'être français, la fierté aussi de notre équipe qu'on a dû défendre
mais
face aux attaques, y compris de l'ancien Premier ministre espagnol,
sûr,
de cette sénatrice paraguayenne. Qu'est-ce que ça dit aussi de la France?
Ça dit que la France est belle quand elle est rassemblée et elle gagne quand elle met tous ses talents en commun. C'est ce que nous a montré l'équipe de France depuis le début de ce mondial. Et évidemment, on est derrière eux, avec eux, et on les encourage.
Merci beaucoup, madame Merci la vous. Ministre, d'avoir Merci répondu beaucoup. À mes questions. Catherine Vautrin, ministre de la Défense, ministre des Armées sur RMC BFM TV.
Merci Apolline, Apolline de Malherbe en direct depuis la place de la Concorde, les Champs-Élysées, avant le défilé du 14 juillet. Il est 8h46, dans un instant, les dernières infos de Dallas avant France-Espagne. Ce soir, 21h, demi-finale de Coupe du Monde, vous suivrez ça sur RMC. Et puis, le choix de la rédaction ce matin sur le BAFA, le brevet pour devenir animateur de colo, de centre de loisirs. Bien, ce BAFA séduit à nouveau les jeunes, vous allez les entendre. On va tout de suite sur RMC.
RMC jusqu'à 9h.
Apolline Matin. RMC 7h-9h. Apolline Matin.
Sébastien Krebs.
Il est 8h49, vous êtes bien sur RMC. Apolline Matin continue avec le mondial d'Antoine dans un instant avec Antoine Salva. Salut Antoine.
Salut, bonjour à tous.
Les dernières infos de la Coupe du Monde avant la demi-finale des Bleus ce soir 21h. Le compte à rebours évidemment est lancé avant ce France-Espagne que vous suivrez bien sûr sur RMC. Mais avant cela, le choix de la rédaction ce matin avec Amélie Courtet. Bonjour Amélie.
Bonjour à tous.
Le choix de la rédaction sur ces animateurs de centres de loisirs ou de colonies de vacances qui sont indispensables cet été. On sait qu'il y avait eu un creux pendant le Covid, mais le BAFA, le brevet pour devenir animateur, connaît un regain depuis 2023. En 3 ans, le nombre de stagiaires a même doublé chez certains organismes de formation grâce à des diplômés de plus en plus jeunes, hein, Amélie.
Oui, ils ont 16 ans, pas encore le bac, mais déjà leur BAFA en poche, car depuis 2022, l'âge minimum requis pour le passer a été abaissé de 17 à 16 ans, et c'est ce qui explique en grande partie la hausse du nombre de diplômés du BAFA ces dernières années.
Alors, qu'est-ce qui pousse ces adolescents à devenir animateurs ?
Eh bien, je suis allée leur poser la question. Je me suis rendue dans un centre de loisirs à Palaiseau, dans l'Essonne. Dernière semaine de formation du BAFA pour la quinzaine de stagiaires entre 16 et 24 ans devant moi. Ils enchaînent les exercices pratiques.
Mettez-vous tous deux par deux, je vais voir un banc devant moi. C'est bon ? On y va. Du coup, là, on fait un grand jeu. Comme il fait beau, on s'est dit qu'on allait faire à l'extérieur.
Où mon animateur.
Donc Alexis, il vous montre le parcours.
J'ai passé le BAFA plutôt pour gagner un peu d'argent et travail, job d'été et tout.
Déjà, c'est parce que j'ai fait de nombreuses colonies.
J'ai un peu suivi le chemin de frères et sœurs parce qu'ils ont passé le BAFA comme et moi.
3, 2...
Bah, j'aime mes enfants, j'aime être avec eux.
Quand je les vois s'amuser, ça me fait plaisir.
En fait, on n'a pas seulement le rôle d'occuper l'enfant pendant la journée, c'est vraiment aussi un rôle... Bah, en fait, lui transmettre des valeurs.
On va leur apprendre la politesse, leur donner un petit peu de compétitivité, mais que ça s'arrête après le jeu.
Allez.
Même un truc tout bête, quand on est enfant, c'est les animateurs qui les apprennent à découper, en fait, à 3 ans. Je les accompagne sur un petit bout de chemin, quoi.
Tu peux bien courir.
Alors, on a entendu ceux qui sont les plus motivés, mais tous ne le sont pas.
Ouais, à l'appel, ils répondent présents, mais c'est parfois seulement la volonté de leurs parents, constate Jean-Loup Desloges, directeur de l'Arrow Haven de l'Académie de Versailles, association qui forme au BAFA, car le BAFA est devenu un vrai plus dans le dossier Parcoursup et résultats.
On a aussi de plus en plus d'abandons. Malheureusement, on a beaucoup d'inscrits, mais on a beaucoup de jeunes qui, au bout de la première journée, décident d'arrêter parce que c'est les parents qui les ont poussés et pas eux qui ont choisi. Donc ça aussi, c'est des choses qu'on voit un peu plus. Alors, c'est pas encore une grande quantité, heureusement, mais c'est des choses qu'on voit un peu plus qu'avant.
Et puis, malgré tout, on manque toujours, en réalité, d'animateurs en France.
Oui, 70% des structures et associations interrogées par l'Exopé, syndicat dans l'animation, rapportent des difficultés de recrutement dans son dernier baromètre. Il y a quand même du mieux. Plusieurs responsables de centres de loisirs, de colonies de vacances avec qui j'ai échangé, se réjouissent de recevoir plus de candidatures. Le problème, c'est que parmi ces candidats, il y a de plus en plus d'animateurs diplômés du BAFA, oui, mais mineurs. Une vraie contrainte, hein, juge François Petit, responsable de colonies de vacances.
On a eu les animateurs qu'on souhaitait, qu'on voulait. Maintenant, on a surtout refuser tout animateur mineur parce que ce n'est pas compatible. Ils peuvent travailler 8 heures par jour. Donc, journée commencée, vous faites 8 plus 8, ça fait 16. À 16 heures, ils s'arrêtent de travailler. Moi, j'ai encore des enfants parce que les colonies de vacances, on les a en 24 heures sur 24. C'est-à-dire que la nuit, s'il y a un enfant qui fait un cauchemar, il ne pourrait pas travailler. Là, c'est BAFA à 16 ans qui pose le petit problème. Voilà, c'est juste une incohérence en fait législative, mais que nous, on ne peut pas subir de cette manière-là.
Et l'autre obstacle qui persiste lors du recrutement, c'est la rémunération, un peu plus de 50 euros brut par jour minimum. Même si elle a été doublée depuis un an, elle continue d'être trop juste selon les candidats face aux heures passées sans compter auprès des enfants.
Les jolies colonies de vacances, merci maman.
Amélie Courtet pour le choix de la rédac. Amélie, animatrice plus jeune ou pas?
Non, pas du tout.
Il y a des BAFA ici ou pas? Antoine Salva, BAFA ou pas?
Non, pas du tout.
Ah bah voilà, il n'y en a pas. Ah, moi non plus.
Mais j'ai adoré mes animateurs.
Mais j'ai fait des colos. Merci beaucoup Amélie. Allez, direction Dallas. Et c'est pas la colo.
RMC, le mondial d'Antoine.
Quoique, il y a parfois une ambiance de colo chez nos Bleus. Antoine Salva pour les dernières infos avant le choc ce soir entre la France et l'Espagne.
Une demi-finale qui sent l'aveu de tous. La finale avant l'heure, hein, tant les deux équipes semblent au-dessus de la mêlée dans cette Coupe du Monde. Les Bleus ont maîtrisé la phase de poule, mené une bataille tant physique que psychologique face au Paraguay avant de se qualifier sans trembler devant le Maroc. L'Espagne, c'est donc enfin un gros morceau sur le chemin des hommes de Didier Deschamps.
On va pas se satisfaire d'être dans le dernier carré, même si c'est beaucoup de fierté et tout ce qu'on veut. On est compétiteurs, donc on va tout faire pour que cette soirée se passe très bien pour nous.
Battu lors de leur dernière confrontation en demi de l'Euro il y a deux ans, puis dominé dans les grandes largeurs en Ligue des Nations l'an dernier face à un grand Lamine Yamal, les Bleus ont bien changé. Enfin, leur force offensive notamment, qui ne laisse pas insensible notre confrère espagnol Roger Saperas.
La France impressionne. Je pense que c'est une sélection qui a plus de profondeur de banc que l'Espagne. Et quand tu énumères l'attaque de la France, je pense que ça fait peur, footballistiquement parlant, à n'importe quelle équipe. Cet arsenal offensif français, aucune équipe au monde n'en a l'équivalent. Et l'Espagne encore moins que les autres.
Et oui, avec 16 buts inscrits, la France possède la meilleure attaque de ce mondial.
Et de son côté, l'Espagne, qui a connu un premier accro, mais sans conséquence en ouverture face au Cap-Vert, a depuis passé la vitesse supérieure.
Oui, il a fallu attendre les quarts de finale pour qu'elle encaisse face à la Belgique son premier but après 650 minutes d'invincibilité en phase finale de Coupe du Monde. L'aurore de Lamine Yamal, qui fêtait hier ses 19 ans, est donc plutôt sûr de ses forces.
Évidemment, c'est difficile comme tous les titres en sélection, mais oui, nous nous voyons tous champions du monde. C'est arrivé en 2010, donc pourquoi pas.
Notez que ce soir, la défense espagnole championne d'Europe en titre sera composée d'un Français, notamment Aymeric Laporte, 32 ans, formé à Bilbao, passé par Manchester City, avant de revenir au Pays Basque. Il était boudé par Didier Deschamps, puis adopté par les Ibères en 2021. Du haut de ses 52 sélections, il n'est pas innocent à la bonne santé de l'arrière-garde espagnole, meilleur du tournoi.
Alors justement, il est beaucoup question de nationalité en ce moment, et les joueurs de la Roja ont vivement critiqué les propos racistes de l'ancien Premier ministre espagnol.
Oui, et notamment Borja Iglesias, actuellement au Mondial. Il s'est dit attristé par la tribune de Mariano Rajoy, qualifié notre sélection de très haut niveau, mais sans Français. Pour l'attaquant de 33 ans, la France est si riche à bien des égards grâce à la diversité de ses habitants. Bon, quoi qu'il en soit, l'ancien chef de file de la droite conservatrice soutiendra peut-être plus sa sélection que certains madrilènes ce soir. Car oui, de nombreux fans du Real, vexés de ne voir aucun de leurs joueurs sélectionnés avec l'Espagne, pourraient pousser derrière les Bleus et Kylian Mbappé, qui en aparté frustre de nombreux supporters merengués au regard de ses performances XXL dans ce mondial.
Antoine, ce soir, ce sont les joueurs qui vont devoir faire attention à leurs propos, qu'ils aient la bouche cachée ou pas.
Oui, tout à fait, puisque Ivan Barton, l'arbitre salvadorien au sifflet ce soir, s'est fait connaître pour avoir été le premier à appliquer une nouvelle règle. Il a exclu en début de mondial un Paraguayen qui avait caché sa bouche avec sa main en s'adressant à un adversaire turc. Et puis, pour être complet, côté protocole, notez que la demande de minutes de silence à l'occasion du triste anniversaire des 10 ans des attentats de Nice a été accepté par la FIFA. Avant le coup d'envoi, Dallas rendra bien hommage aux 86 victimes.
21h à Nice, il sera 14h dans le Texas, et cela nous rappelle qu'il s'agit là du tout premier match des Bleus hors de la côte Est des États-Unis.
Et oui, bienvenue à Dallas, où une chaleur étouffante règne sur la ville. 40 degrés de moyenne à la mi-journée attendue. Fort heureusement, le stade situé à Arlington, dans la périphérie, est couvert et climatisé. Alors après être resté à l'est, à Boston, Philadelphie et New York, les Bleus cumulent 4500 km et 14 heures de vol après ce voyage au Texas. les Espagnols qui ont visité le continent en long et en large, de la Californie à la Géorgie, en passant par le Mexique, ont parcouru plus de 21 000 km et passé trois fois plus de temps en vol que nos Français, en espérant que cette énorme différence pèse de tout son poids dans le verdict de ce choc.
À 21h donc, le coup d'envoi de ce France-Espagne sur RMC, bien sûr en intégralité avec Jean-Louis Tour, avec toutes les équipes RMC Sport, RMC Radio officielle de cette Coupe du Monde, en direct depuis les États-Unis ce soir de 20h à 5h du matin. Vous ne manquerez rien, l'avant-match des 18h depuis Paris, l'after depuis New York ensuite avec Gilbert Bribois.